Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi, fin de la semaine aussi, c'est notre dernière, c'est vendredi. Bon, tous les yeux aujourd'hui sont vraiment tournés vers Ottawa, le président Joe Biden qui est sur place. Et je vous cacherai pas, écoutez, il y a toutes sortes de bonnes choses dont on va vous parler dans les prochaines minutes, des ententes, des discours qui ont été faits à la Chambre des communes, mais un petit malaise qui est venu se glisser là-dedans. Est-ce que ce soir, il y a un grand dîner officiel, le dîner d'État à l'honneur du président américain, c'est bien normal. Est-ce que Pierre Poilievre a été invité ou pas? Et là, on a deux versions, vraiment pas faciles à commenter pour nous, commentateurs, là, mais parce que du côté de Pierre Poilievre, du bureau de Pierre Poilievre, on semble indiquer qu'on n'a jamais été invité. Or, tous les autres chefs sont invités et sont là. Yves-François Blanchet y sera, Jack Metzing y sera, Mme May aussi, je crois. Mais Pierre Poilievre n'aurait pas été invité selon le bureau de Pierre Poilievre. Maintenant, ce qui circule et ce que le bureau de Justin Trudeau fait circuler, c'est que Pierre Poilievre veut pas être là. Alors là, pas facile à démêler. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'air, tu sais, des enfants là, qui, devant la visite, se mettent à arracher la nourriture sur la table, puis quand ils se font chicaner par leur mère, disent « Ben là, c'est parce que d'habitude, on n'a pas à manger. » C'est gênant devant la visite, à côté, là, ben gênant devant la visite. Là, c'est vraiment ce que ça donne comme impression. On n'a pas pu régler ça d'une façon un peu plus élégante. Et là, ben, on a ce questionnement-là. Est-ce que Pierre Poilievre a été invité ou pas? Est-ce que vraiment on l'aurait oublié? Mais si oui, quel impair diplomatique du bureau du premier ministre? Si Pierre Poilievre veut pas y aller, est-ce qu'il passe ça sur le dos des autres? Écoutez, là, c'est vraiment difficile à démêler. Probablement que dans les prochains jours, on va réussir à démêler ça, mais présentement, j'ai pas d'autres mots. C'est juste gênant devant la visite. Bonjour Alexandre.
Salut Mario, effectivement, c'est gênant. Je pense qu'il y a pas, c'est les meilleurs mots pour qualifier tout ça, alors qu'une visite aussi importante.
Ceci dit, la visite se déroule.
Oui.
La visite se déroule. Ils viennent de faire tour à tour M. Trudeau et M. Biden leur discours devant la Chambre des communes. La prochaine étape, c'est cette conférence de presse conjointe. Commençons par les discours. On était dans la bonne entente, la bonne humeur. Une petite joke de hockey de Joe Biden, ça, tu te trompes pas au Canada avec ça.
Non, c'est sûr. Puis ça a provoqué l'hilarité, puis même peut-être des huées qu'on a entendu un tout petit peu dans les communes parce qu'il a dit qu'il aimait le hockey. Tout le monde sauf les Maple Leafs de Toronto. Il y a des gens qui ont applaudi. Il y a
mais
des gens
qui ont applaudi, c'est sûr qu'il y a tous les fans du Canadien, tous les députés québécois.
Oui, et dans un.
Ceux qui ont applaudi.
Oui, puis après ça, dans la Ligue nationale de hockey, les Maple Leafs de Toronto sont toujours un peu comme une blague. Là. Les gens adorent les haïr, puis Joe Biden a confié que c'est parce qu'il est marié avec une femme, le Jill Biden, qui elle vient de Philadelphie, puis qu'ils ont battu les Flyers plus tôt cette année. Donc, s'il ne voulait pas dormir tout seul, qu'il avait qu'à bien se tenir, puis qu'il était obligé de dénigrer publiquement les Maple Leafs. Outre cette blague, un discours effectivement sur le ton de la bonne humeur, de la bonne entente, mais surtout le thème de l'amitié. C'est ce qu'on va retenir là, plusieurs fois Joe Biden et Justin Trudeau, le tour à tour, qui ont parlé vraiment de ce qui unit le Canada et les États-Unis, de notre frontière commune, de nos objectifs communs, de notre amour pour la démocratie. Un beau discours, somme toute, là, du président Joe Biden.
Mais je voulais il était faire... énergique quand même. Il avait l'air en bonne forme. Là. Il avait l'air content d'être à la Chambre des communes.
C'était pas Sleepy Joe aujourd'hui. Là.
Ça, non, c'est non, non,
pas,
non.
Pas du tout. Il avait l'air très, très content d'être là. D'ailleurs, il a commencé aussi sur une note, Mario, qui a peut-être retenu l'attention encore plus ici au Québec. Je te fais écouter.
Good afternoon. Bonjour, Canada. I took 4 years of French in school. First time I attempted to make a speech in French, I was laughed at. So that's as good as I can get right now. Seriously, thank you very, very much.
Donc, il a fait quatre ans d'études en français, mais il a fait une fois un discours en français, il a fait rire de lui. Fait qu'il dit que pour l'instant, il va s'en tenir à Bonjour Canada.
Voilà.
C'était bon.
Il a quand même pris le temps. Hein, il a dit plus de mots de français que certains joueurs du Canadien de Montréal en diront jamais, hein, avec un bonjour comme ça. Donc, ça semble avoir été apprécié pas mal. Et donc, il a commencé son discours sur cette note-là. Bien évidemment, là, c'est peut-être pas le début de sa visite. Hier soir, il est arrivé là, en fin de journée, a passé une partie de la soirée Rideau Cottage avec justement Justin Trudeau, avec la gouverneure générale Mary Simon.
La famille Trudeau a fait circuler de belles photos de M. Biden, les enfants sur le perron, dans la maison, etc. Là.
Oui, c'est toujours le bon moment pour faire un beau photo op. Et il l'a rencontré aussi, puis c'est encore plus frappant, comme tu le dis, lorsqu'on voit l'absence de Pierre Poilievre. Là, mais il y a eu les deux de l'opposition qui étaient tous là sur leur 31. Jagmeet Singh a pu échanger quelques mots avec Joe Biden. Il y a même Elizabeth May, la chef du Parti vert, qui a donné une barre de chocolat.
Elle avait un cadeau pour le président.
Oui, puis une barre de chocolat pour le président Biden. Ça s'appelle Peace for Chocolate. C'est confectionné par des réfugiés syriens qui sont à Halifax. Donc, quand même un beau petit cadeau comme ça. Il va pouvoir manger une petite collation plus tard, ouais, en rentrant aux États-Unis.
Ça va être tout fondu à la fin de la journée.
Exactement, mais donc là, c'est leurs allocutions, puis comme tu le disais, on s'attend à leur...
Excuse-moi, mais tu penses-tu que le président, c'est comme dans Cléopâtre? Tu penses-tu que... Il y a, mettons, quelqu'un, il donne une barre de chocolat comme ça, on sait pas ce qu'il y a dedans. Tu penses-tu qu'il y a un goûteur?
C'est tellement de bonne question. J'imagine que oui.
Moi, je suis convaincu que les services secrets, tout ça, écoute.
Ils ramassent la barre de chocolat,
bien sûr. Ils prennent, ils se promenaient dans la rue, ils checkaient les poubelles une par une. D'après moi, ils laissent pas manger n'importe quoi que le premier venu lui donne, là.
Non, effectivement, même si Madame May n'est pas la première venue nécessairement.
C'est la dernière venue, là. Oui. Ils la connaissent pas. Elle est chef du 5e parti au Canada. Puis elle-même, où est-ce qu'elle l'a pris à la barre de chocolat? Quelqu'un qui a donné ça un matin dans l'entrée du Parlement, là, tu sais.
C'est bon. Ouais. Bon, c'est des questions à se poser, là. Un goûteur qui va peut-être, on l'espère, fera pas oula.
Si le goûteur finit en tapant les pieds au sol puis en se tenant la bédaine en disant oulala!
Oula! Effectivement. Mais là, on attend d'ailleurs Mario, là, dans quelques instants. On risque de voir aussi, là, justement, cette conférence de presse des deux, du président et du premier ministre ensemble. Il y avait déjà pas mal de choses. Oui, bien, il y a pas mal de choses. Oui, vas-y.
Non, j'allais dire, on en sait un petit peu quand même sur la conférence de presse, là, sur le chemin Roxham. Ça va être une grosse annonce.
Oui, absolument. Là, c'est à minuit ce soir que le chemin Roxham serait fermé. Là, donc, ça va entrer en vigueur, cette modalité donc de fermer le chemin. Mais on n'a toujours pas les détails là, vraiment de comment va s'organiser cette fermeture. Mais là, s'il y a des demandeurs d'asile qui veulent traverser la frontière ailleurs qu'un poste frontalier officiel, ils vont être refoulés. Et s'ils sont interceptés à l'intérieur du pays là, dans 14 jours qui suivent leur arrivée, même chose, sont refoulés également. Et donc, là, l'entente comprendrait là, les premiers détails qu'on en connaît. C'est que le Canada prévoit 15 000 places pour ce qu'on appelle les migrants des Amériques qui souhaitent entrer légalement dans le pays. Tout ça viendrait en échange de l'arrêt des entrées irrégulières. 15 000 places quand on sait qu'il y a quelques 40 000 migrants qui ont emprunté le chemin Roxham en direction nord l'an dernier. C'est pas tant que ça, peut-on le dire comme ça. Faudra voir vraiment, évidemment, comment ça va être appliqué. Les autres détails qu'on connaît aussi, Mario, c'est que le Canada va devoir s'engager à débloquer 100 millions de dollars supplémentaires pour Haïti pour aller aider les forces de sécurité à reprendre le contrôle dans le pays.
Mais ce qui est déjà un compromis, oui, il faut sortir de l'argent, mais de toute façon, on le sait que ça ne va pas à Haïti, puis faudrait investir un jour. Mais la demande initiale, il faut toujours voir d'où on part. La demande initiale des Américains, c'était une intervention militaire qui aurait probablement coûté plus cher que ça. Plus le fait qu'il semble qu'au Canada, autant le gouvernement Trudeau, mais nos experts en sécurité, les gens qui connaissent bien Haïti ne croient pas que ce soit la bonne chose à faire. Les interventions militaires en Haïti ont déjà été essayées. Et dans le cas présent, on n'avait pas l'impression que c'était la bonne chose à faire. Et en plus, c'est pas clair là, qu'avec les exercices, la participation à l'OTAN qui a été accrue depuis la guerre en Ukraine et tout le reste, c'est pas clair que l'armée canadienne avait encore en équipement et en effectif humain, là, avait encore ce qu'il faut pour se lancer dans une grosse nouvelle mission où il y aurait probablement des morts parce que ça risquerait d'être très violent en Haïti.
Ça serait donc, pas beau Canada, pour le public non
oui,
plus.
Oui, le Canada va mettre 100 millions, va participer à de la formation, aider la police, essayer de reprendre le contrôle là-bas, de sortir de l'anarchie. Mais on a réussi à se sortir de cette idée là, que les Américains avaient souhaité au départ d'une intervention militaire.
Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
Ah, pour parler de cette visite du président Biden au Canada, on va discuter tout de suite avec Donald Cucciolletta, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, Donald.
Bonjour, Mario.
On va parler de M. Biden, mais on se réserve quelques minutes à la fin. Je veux absolument qu'on élargisse, qu'on se parle d'autres visites, d'autres qui sont passées à l'histoire, de grands moments, de relations humaines qui sont devenues plus grandes que la stricte relation politique Québec-Canada. Mais dans le cas présent, M. Biden, il faut dire que la relation Canada-États-Unis avait été, pendant les années Trump, je dirais pas sur pause, là, avait été assez compliquée. On n'était plus dans l'amitié habituelle.
Non, c'est évident, avec Donald Trump comme président des États-Unis. D'ailleurs, on a eu les fameux photos, hein, quand ils se sont rencontrés, M. Trudeau puis M. Trump. Évidemment, M. Trump ne arrêtait pas de parler, c'est tout lui qui parlait. Puis on voyait que M. Trudeau était assis là, tranquillement, dans son coin, là, puis il disait pas un mot. Non, c'est clair, c'était une situation qu'on n'avait jamais vue dans cette relation-là entre le Canada et les États-Unis. Au début, on pensait quand même qu'on pouvait, parce que je m'en rappelle toujours que Mme Christina Freeland avait dit, mais moi, je le connais, M. Trump. J'ai dû travailler comme journaliste à New York. J'ai même fait des entrevues avec lui. Donc, je sais comment l'approcher. Mais non, il n'y a personne qui sait comment approcher Donald Trump. Attendons-nous bien, là. Hein? C'est Donald Trump en premier, puis Donald Trump toujours en premier. Donc, on a vu que cette relation-là n'a pas vraiment bien fonctionné du tout. Ça ne veut pas dire que le Canada n'a pas fait des avances au niveau des Américains dans certaines, dans certains domaines, mais c'est clair que ça a été fait via les Nations Unies, via d'autres contacts
Ce qu'on dit, c'est que le Canada a renforcé sa relation avec les gouverneurs des États. Ça a forcé le Canada à complexifier ou à peaufiner sa relation, à dire là, on peut plus juste s'occuper de la Maison-Blanche, il faut qu'on s'occupe des gouverneurs des États, il faut qu'on s'occupe de toutes sortes d'autres forces politiques importantes dans le pays.
Oui. Ça existe depuis des années. Avant, c'était tout le Québec, avec les Maritimes, avec la Nouvelle-Angleterre. Là, c'est rendu chez le Canada. Ça veut dire qu'on a trouvé d'autres avenues que probablement M. Trump ne savait pas que ça existait. Donc, ils ont profité de ça, comme ils ont profité à partir de l'Ontario vis-à-vis le Chicago, Détroit, le Midwest, qui est très important aussi pour les l'économie américaine. Puis l'Ouest, mais évidemment, avec Vancouver, puis la Californie et tout ça, ils ont travaillé de ce côté-là aussi. Fait que finalement, on n'a pas travaillé comme une nation unie. On a séparé les choses, mais on a fait du bon travail quand même. Parce qu'avec M. Trump, on ne pouvait pas nécessairement réaliser des grands travaux. Là, ça, c'est évident.
Ouais. Bon, Joe Biden, est-ce qu'on peut dire qu'une partie du travail est simplifiée par le fait qu'il connaît le Canada?
Oui, il connaît le Canada. Je veux dire, il connaît surtout quand il était ici comme vice-président avec Barack Obama. Mais de là à dire, mais regardez, j'ai écouté son discours de A à Z, mais c'est toujours le même discours. Nous sommes des grands amis, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait la guerre ensemble, on fait encore la guerre ensemble aujourd'hui. C'est un tout le même discours des États-Unis. Hein? Je veux dire, ça devient constamment de nous sommes des grands amis, nous travaillons ensemble, on se connaît, etc., etc. Et durant tout le discours, finalement, de M. Biden, ça a été uniquement ça. Donc, je m'attendais qu'il parle de choses beaucoup plus concrètes que le gouvernement canadien a besoin de savoir puis d'entendre aussi.
Donc, dans ton esprit, il est resté un peu général. Décevant
général,
là-dessus?
Oui, absolument. Puis il a dit qu'est-ce qu'on sait déjà, sauf que j'aurais aimé ça qu'en disant qu'on est des grands amis, qu'on va créer de l'emploi pour nos travailleurs ici, puis nos travailleurs aux États-Unis. Il me semble qu'il aurait pu faire référence à Buy America, qui est la loi protectionniste aux États-Unis, que lui-même avait annoncé dans une adresse à la Nation. Donc, toutes les compagnies américaines, tous les investisseurs américains, toutes les banques américaines, ils investissent dans le protectionnisme aux États-Unis présentement. Donc, il n'y a pas dit un mot là-dessus. Bon, peut-être en catimini, quand ils se sont rencontrés à deux, M. Trudeau puis M. Biden. Mais j'aurais aimé ça qu'ils disent un petit mot de ce côté-là aussi, pour calmer un peu les esprits, puis sachant très bien que, écoute, 85% de ce qu'on produit va aux États-Unis, puis là, on commence à parler de Buy America, puis protectionnisme. Écoutez, là, ça commence, on regarde ça, puis on dit, oups, jusqu'à où ça va aller, tout ça, là?
Oui, parce que sur le protectionnisme, autant Trump c'était plus sur la forme. Là. C'est tannant, quelqu'un que tu peux pas y parler, c'est tannant. Quelqu'un qui est complètement imprévisible, qui peut te péter une fuse, puis à un moment où tu t'en attends le moins, c'est tannant. C'est pas une façon de faire la diplomatie. Mais non. Trump, à part son style, puis son impossibilité de discuter sérieusement, il était pas plus protectionniste que Joe Biden. Là. Les démocrates sont aussi protectionnistes.
Au contraire. Lui, c'était quelqu'un qui croyait à l'ouverture totale des économies. Il croyait beaucoup à ça, lui, sachant très bien que l'économie américaine est la plus forte. Donc, oui, on apporte les Canadiens, venez chez nous, on va faire de l'argent ensemble et tout ça, sachant très bien que ça va bénéficier beaucoup les États-Unis. Écoute, il y a une chose certaine, que les gens qui contrôlent l'économie américaine, les gens qui ont quotidiennement les grandes compagnies, les grandes corporations, ils regardent le Canada, ils regardent nos ressources naturelles, puis ils disent, ben, on a besoin des Canadiens, on a besoin de tout ce qu'ils peuvent nous envoyer, etc., etc., etc. Donc, avec Trump, ils savaient ça, tout en disant à la population, je vais sauver vos emplois, on va protéger. Lui-même avait dit, Buy America. Donc, mais on connaît Donald Trump. Il parle d'un côté de la bouche, puis à un moment donné, il change d'idée, puis il parle de l'autre côté de la bouche. Tandis que là, Biden, j'aurais aimé ça qu'il dise, parce qu'il le dit à l'adresse à la nation. Donc, ça veut dire le peuple a entendu ça, et pas seulement ça, les banques ont entendu ça, les institutions financières ont entendu ça, et les grosses compagnies américaines qui ont besoin d'entendre ça, tu dis, pour repartir l'économie américaine, repartir l'emploi américain. Ça veut dire que finalement, c'est « Buy America ». Mm-hmm. Puis là-dessus, d'ailleurs, tous les journalistes de CBC que j'ai écoutés avant, ils disaient tout ça, j'espère qu'il va dire un mot là-dessus, pas un mot. Juste disant qu'on est bon, on travaille ensemble, on va s'entraider, on s'en va sur la Lune, puis après ça, on va aller ailleurs, puis etc., etc., etc. Ouais. Pour moi, c'est un discours d'amitié qu'on connaît depuis combien d'années?
Ouais. Là, par contre, là où ils ont atteint des résultats, je pense que ça va être annoncé là, dans la prochaine demi-heure ou la prochaine heure, c'est concernant le chemin Roxham.
Ah oui.
Là-dessus, même, je pense que là-dessus, on va donner à Justin Trudeau qu'il a réalisé l'improbable. Peu de gens pensaient, il y a un mois, que Justin Trudeau allait réussir à faire assez de chemin à ce dossier-là avec les Américains. Oui. Parce que, Donald, au premier abord, là, quand Justin Trudeau arrive ou les gens de Justin Trudeau, l'entourage de Justin Trudeau dit à la Maison-Blanche, moi, faudrait qu'on parle du chemin Roxham. Eux, c'est pas un dossier qui les empêche de dormir là, à Washington.
Non. Mais il faut pas oublier que M. Biden fait la même chose sur la frontière mexicaine. Il a pris la position de M. Trump depuis 6 mois. Donc, il ferme un peu la frontière aussi avec le Mexique. Ça veut dire qu'il fait attention qui vient, comment qui vient et tout
est-ce
ça.
Est-ce qu'il y a le choix? Est-ce qu'il y a le choix?
Non,
parce
y a
que là,
pas le choix.
Ça cogne aux portes par dizaines de milliers. Hein?
Quand M. Trudeau a négocié avec lui pour la question du chemin Roxham, il a probablement dit, vous faites la même chose. Il n'a pas dit peut-être de cette façon-là, mais il a dit, on sait que vous avez une politique beaucoup plus sévère sur la frontière mexicaine. Donc, nous, ce qu'on demande ici, c'est un peu la même chose. Ça se dit, ces choses-là, dans la diplomatie, de sens, sachant très bien que, monsieur, ça fait 6 mois, il a décidé que ça va être comme ça, maintenant, puis qu'on va surveiller qui sont... Puis d'ailleurs, les 15 000, ben, ils vont les surveiller. La question, une fois de Roxham, il s'est signé ce soir, à minuit et une, ça va être en place, c'est comment qu'on va gérer la question.
Ouais, parce que c'est pas une petite frontière, là, en termes de longueur, de distance, là, c'est pas une petite frontière à surveiller, là. C'est quoi, c'est que 5000 kilomètres, sans compter la frontière de l'Alaska, là?
Oui, exactement. Fait que non, c'est ça que la question. Donc, je trouve que c'est un bon pas en avant. Là, c'est au gouvernement canadien de gérer tout ça, là. Parce qu'il faut pas simplement dire, ben là, c'est fermé, il n'y a pas de problème, là. Non. Écoute, il y a du monde présentement qui sont en Floride, qui n'ont pas écouté le discours de M. Biden, ni celui de M. Trudeau sur Roxham Road. Puis les autres, ils ont déjà peut-être pacté puis s'en viennent, là. Écoutez, là, fait que ça veut dire que déjà, on doit gérer qu'est-ce qu'après minuit et une, demain, il va falloir gérer. Est-ce qu'on bloque complètement qui, comment, etc., etc., etc.? Ça, j'aurais aimé ça, les détails de la question. Toi, ça, j'espère qu'on va l'entendre à un moment donné.
Toi qui connais bien les États-Unis, ce qu'on a vu, là, nous autres, ce qu'on a observé depuis, mettons, 3-4 ans, là, au chemin Roxham, c'est que, bon, c'est sûr qu'il y a des migrants, ils sont mal pris dans leur pays, ils cherchent une porte, ils viennent cogner aux portes du Canada pour demander l'asile, on le comprend. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'ils étaient aidés. Là. On a eu, d'abord, même le maire de New York l'encourageait. On leur fournissait
des... Il y avait des autobus qui étaient
sur... Oui, il y a des autobus. Après, mais même, on a entendu parler des histoires que des douaniers américains, en dehors de leurs heures de travail, là, en dehors de leur quart de travail, faisaient un petit sideline les soirs et conduisaient...
À partir de Plattsburgh.
Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tout ça est fini? En d'autres termes, est-ce que les douaniers américains, les policiers américains, les gens de New York, est-ce qu'à partir du moment où Biden, dans un autre pays, dans un sommet avec le premier ministre du Canada, dit là, on ferme le chemin Roxham, est-ce que tout ce monde-là va arrêter? Là? Pas nécessairement des passeurs clandestins, là, mais mettons les douaniers, puis tout ça, est-ce que tout le monde va se mettre à marche à droite et dire, OK,
oui,
laissez...
Oui, du côté canadien, vont sûrement mettre le haut là dans tout ça, puis au niveau des postes, ils sont déjà légales, il n'y a pas de problème, ça va être faire... Ils surveillent déjà, c'est pas Roxham Road, je veux dire, quand on passe à la colle et tout ça, on est surveillés et tout ça. Mais c'est la question, c'est est-ce que les autobus de New York vont continuer à cheminer vers Plattsburgh? Est-ce que, comme tu dis, les gens qui ont fait beaucoup d'argent, les chauffeurs de taxi. J'ai même lu dans le Plattsburgh Republican, qui est le journal quotidien à Plattsburgh, une entrevue avec un chauffeur de taxi. Le montant d'argent qu'il fait depuis quelques années, il dit, j'ai jamais vu, il y a mes amis de taxi à New York qui s'en viennent travailler avec moi parce que j'ai besoin d'aide, j'ai tellement d'ouvrage. Fait que, je sais pas, est-ce que ça va arrêter? Ça va dépendre de qui? Ça va dépendre probablement des policiers de Plattsburgh, ça va dépendre de l'État, les policiers d'État de l'État de New York, tout ça. C'est ça, je dis, comment on va gérer ça? Parce que ça a une vie, ça, hein? Ça a déjà commencé depuis plusieurs années. Donc, les gens vont continuer à penser que c'est possible, etc., etc. Ils n'ont pas écouté Joe Biden aujourd'hui, mais ils n'ont pas écouté Trudeau non plus, puis ils lisent pas nécessairement les rapports entre les deux pays non plus. Ouais. Donc, fait
puis,
que...
Puis eux autres se sont habitués à faire de l'argent avec ça semaine après semaine, là.
Ils ont fait de l'argent énormément, puis finalement, ça a amené de l'argent dans l'économie de la petite ville de Plattsburgh, où j'ai enseigné 12 ans à Plattsburgh State University, et effectivement, New York, mais la mer, il y avait les autobus pleins, puis ils les envoyaient, ils disent « go to Plattsburgh ». Donc, tout ça fait qu'il faut gérer ça maintenant. Puis
c'est plus facile de faire une conférence de presse à deux grands leaders politiques qu'ensuite d'implanter tout ça sur le terrain, sur des milliers de kilomètres. Ben, on va surveiller ça, Donald Cucciarletta. Merci beaucoup.
Plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis
Gosselin. Bonjour, Francis.
Salut, Mario.
Alors, lendemain de la rencontre avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, Airbnb aujourd'hui, qui a plié.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr que tout ça là, découle d'une triste histoire là, de feu là, qui a ravagé un immeuble dans le Vieux-Montréal et qui a mené à la mort de 7 personnes, selon les dernières estimations. Ça a donné lieu là, à des rencontres, des représentations nombreuses là, dans plusieurs milieux, dont avec l'opérateur, le Airbnb. Et comme tu dis, au lendemain de la plateforme, Airbnb a annoncé qu'elle allait elle-même le prendre en charge, de faire le ménage sur la plateforme. Donc, c'était déjà le cas, Mario. Donc, ce qu'on comprend pas, là, c'est la loi est claire, mais clairement, Airbnb ne l'appliquait pas. Pour s'inscrire sur la plateforme, il faut fournir un numéro d'enregistrement auprès là, des instances gouvernementales de l'industrie du tourisme québécois. Et donc, en fait, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment justement des logements comme celui qui a pris feu là, la semaine dernière a pu s'inscrire sans un tel certificat.
Mais est-ce qu'on peut penser, Francis, que par exemple, je sais pas ailleurs, peut-être moins ailleurs au Québec, mais qu'à Montréal, ça va diminuer considérablement l'offre d'Airbnb à court terme?
C'est absolument certain.
Puis là, je te pose une autre question plate. Qu'est-ce qu'on fait des milliers et milliers, je parle à travers mon chapeau, puis en même temps, je suis sûr que c'est vrai, de nuitées, là. Non, mais les nuitées, déjà, c'est-à-dire la personne là, de Varsovie qui a prévu venir à Montréal pendant 4 jours, en avril prochain, puis qui s'est réservé un appartement dans le Vieux-Montréal. Elle, cette personne-là, elle a planifié son voyage pendant le temps des fêtes. Elle s'en vient à Montréal au mois d'avril. Elle a sa chambre, mais sa chambre n'a pas son numéro, elle est illégale. Est-ce qu'on va tirer sa plug?
Probablement, Mario, là, c'est là où justement les hôteliers vont faire de bonnes affaires là, avec ces gens-là qui vont être un peu laissés pour compte. J'ose espérer que Airbnb va peut-être faire ça graduellement, là, peut-être honorer là, pendant une courte période des réservations qui étaient déjà faites. Mais chose certaine, donc ce sera plus possible de louer sans avoir le certificat d'enregistrement. L'autre volet, Mario, bon, on a peu de pitié là, pour ces gens-là, mais il y a quand même certainement des individus qui avaient acheté des appartements ou des immeubles dans le but d'en faire la sous-location, profitant un peu de cette zone grise, ben là, éventuellement, ça va faire que ces appartements-là vont être inoccupés, donc possiblement que ça représente certaines opportunités là, de remise en marché, donc d'achat là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, d'acheter d'anciens Airbnb qui n'avaient finalement pas le droit d'en faire. Donc, ça va être une autre conséquence certainement de ça. On n'a pas les chiffres, hein, Mario, c'est évidemment tout ça est privé là, chez Airbnb. Je ne sais pas entre nous s'il s'agit de 23 appartements ou de 2000 appartements, mais c'est probablement plusieurs centaines là, qui sont dans une situation d'irrégularité qui vont maintenant être interdits d'opérer sur la plateforme.
Ouais, ouais, ça va être à surveiller là, comment tout ça se déploie, parce qu'en fait, probablement que sur le nombre, il y en a où c'est juste des propriétaires négligents. Là, ils vont aller chercher leur numéro de certification, puis dans quelques jours, ils vont être réinscrits sans problème. Mais je crois comprendre qu'il y en a qui étaient tout simplement dans des secteurs où le zonage ne le permet pas, etc. Donc, ils n'auront jamais leur certificat, donc ils vont juste devoir disparaître d'Airbnb, là.
Effectivement, puis tu sais, je pense que aussi de manière assez légitime, là, l'industrie touristique là, puis les hôteliers là, que je connais assez bien, tu sais, fait des représentations depuis un bon moment pour quand même aussi rappeler que tout ça représente pour eux quand même une forme de concurrence illégale, c'est-à-dire que tu sais, si tu n'as pas tes permis, si tu n'as pas fait les efforts, puis tu sais, dans le cas de l'immeuble qui a passé au feu, là, si tu ne suis pas le code du bâtiment, là, tu sais, finalement, là, s'il n'y a pas de fenêtre, s'il n'y a pas de porte, tu sais, essentiellement, ben, c'est des gens qui sont capables d'opérer l'équivalent d'un service hôtelier sans avoir toutes les obligations qu'on impose aux hôteliers, ne serait-ce que la taxe sur l'hébergement 3,5%, mais plein d'autres codes réglementaires qui étaient un peu passés outre par ces opérateurs-là. Donc, je pense que de manière générale, comme tu dis, ceux qui sont dans le vert, là, ben, qui ont juste à aller se remettre en règle, le feront. Mais tous les autres qui opéraient un peu là, ce régime un peu cowboy et qui faisaient un peu de la concurrence déloyale à l'industrie hôtelière, ben, eux, ils vont se retrouver le bec à l'eau. Là. Puis effectivement, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent un peu maugréer là, face à cette annonce-là aujourd'hui, Mario, là, des opérateurs.
Peut-être quelques logements de plus disponibles pour le 1er juillet prochain. Francis, triste nouvelle en ce qui me concerne. Parce qu'on dit au Québec, on a beaucoup maintenant de distilleries, de gin, de vodka, de rhum, de fabrication locale. Mais un des pionniers, c'était Gin Saint-Laurent à Rimouski. Et là, ils sont en faillite.
Effectivement, ouais. Puis c'est une triste histoire, Mario. Là. Puis bon, ça veut pas signifier la fin nécessairement de son produit vedette, là, qui est le Gin Saint-Laurent, mais qui est à base d'algues, là, que tu connais bien.
Mario, qui est excellent, que je connais très bien.
Excellent. Moi, je suis très fan aussi de ce gin-là. En fait, ce qui est donc l'histoire, là, c'est qu'en fait, l'été dernier, Mario, la distillerie du Saint-Laurent avait ouvert là, en grande pompe une nouvelle usine qui avait coûté quand même plusieurs millions de dollars. Là, on parle de presque 10 millions de dollars. Et éventuellement, et qui avait eu des dépassements de coûts. Donc ça, c'est une partie de l'histoire là, qui devait coûter 9,5 et finalement qui en a coûté 11,5. Et puis je devine, Mario, là, puis tu sais, je suis pas dans le secret des dieux là, des affaires financières de l'entreprise, mais aussi probablement certaines notions là, de coûts de crédit là, actuellement.
Oui, la hausse des taux là, quand tu investis des millions.
Je sais pas comment ça se traduit, mais tu peux t'imaginer que tu sais, dans les taux corporatifs, on parle souvent de du 7, 8, 9%. Ben, sur un financement de 10 millions, on parle d'un million par année juste en intérêt. Là, tu sais, donc, il faut quand même en vendre beaucoup de gin là, juste pour couvrir les intérêts sur la dette. L'entreprise avait aussi embauché là, 25 personnes additionnelles là, pour ce site-là. Donc, tu sais, c'était vraiment un peu un fleuron local. Et donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'ils sont placés donc sous la protection de leurs créanciers, mais avec l'espoir, comme c'est rapporté par plusieurs médias, d'en arriver à une entente avec les créanciers, de sorte que l'entreprise ne doit pas nécessairement cesser ses activités, mais peut-être juste restructurer sa dette puis continuer à opérer. Ouais. Je devine, Mario, que la communauté rimousquoise puis toute le Bas-Saint-Laurent là, va se liguer là, pour essayer de préserver ce fleuron-là. Ouais.
Il y a deux, à part l'histoire triste puis que le gin est bon, là, je dirais, du point de vue de la business, il y a deux histoires là-dedans, Francis. T'as celle de la difficulté de la croissance. Là. Parce que je pense que, encore là, on s'imagine, mais t'étais rendu à une certaine dimension, puis là, ta production un peu artisanale, ça a plus d'allure. Si tu veux passer à la prochaine phase, je sais pas, vendre plus large, etc., ça prend une vraie usine. Là, donc, mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, cette phase-là, parce que pour, tu viens de le dire, pour financer un projet de ce grosseur-là, faut que tes ventes explosent, faut que tes équipes de vente, faut que ton volume d'affaires explose vite. L'autre affaire, c'est que sincèrement, moi, je m'inquiète. Là, je parlais il y a quelques semaines, quelques mois avec le président de l'association là, des distilleries qui se plaignait du gouvernement puis de la SAQ. Puis ils ont raison. Sur beaucoup de points, ils ont raison avec leurs plaintes. Il reste que il y en a vraiment beaucoup. Là. Est-ce qu'il y a de la place au Québec? Est-ce que c'est pas un domaine où il va y avoir malheureusement des regroupements, quelques faillites rachetées par le voisin? T'sais, est-ce qu'il y a de la place dans la grosseur du marché du Québec pour autant? C'est super beau là, parce qu'on voit ça dans chaque région. Chaque région a son gin, sa vodka. Mais est-ce qu'il y a un point de rupture où il n'y a juste plus assez de clients? On boit pas assez de gin pour tout ce monde-là? Là?
C'est comme tu le dis déjà, effectivement, Mario, là, tu sais, si on regarde juste le marché de la microdistillerie, là, tu sais, c'est-à-dire des produits, là, comme la vodka et le gin, qui est ici le produit phare de la microdistillerie, de la distillerie du Saint-Laurent, on est passé ces dernières années, là, de deux joueurs sur le marché fait au Québec à 70. Donc, ce qui veut dire que la quantité, légèrement supérieure, là, le gin québécois est quand même un peu en vogue, mais pas 35 fois plus. ce qui fait en sorte que c'est davantage de joueurs qui se battent pour des parts de marché qui, elles, grandissent pas aussi rapidement que le nombre de fabricants. C'est vrai ce que tu dis, Mario, il y a une faible barre à l'entrée pour faire quelques bouteilles, mais si tu veux vraiment industrialiser puis vendre à l'international, il y a, c'est le cas de la distillerie du Saint-Laurent, besoin d'investir des dizaines de millions de dollars en capacité de production. Et ça, ben, c'est ce qui vient parfois scier les jambes là, à certaines entreprises qui grandissent trop vite et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'assumer là, ces financements-là aussi rapidement. Ouais.
Si t'as la bad luck, que l'année où tu donnes le grand coup, on construit l'usine, genre 5 mois après, les taux d'intérêt partent à monter, puis ils montent le plus vite qu'on ait vu depuis un demi-siècle. Je dis non, mais sérieux, t'as les conditions parfaites pour te casser la gueule, là.
Effectivement. Puis tu sais, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, là, Mario, mais je sais notamment qu'il y a quand même c'est en vogue. Je pense que ça reste un peu un épiphénomène pour le moment. Il y a quand même une augmentation assez importante des différents produits qui sont qu'on dit sans alcool, mais qui imitent l'alcool à quelque part. Tu connais sûrement le Bocal, qui a d'ailleurs été racheté par Duvernois, qui est un distilleur. Tu sais, quand tu parlais de consolidation, tu sais, on voit de plus en plus d'autres types de produits.
Mais il y a tout Romeo aussi. Romeo Gin, là, on partit toute une série de produits sans alcool.
Sans alcool, prêt à boire, etc. Fait que, encore une fois, ça, c'est comme si l'industrie qui se cannibalise un peu elle-même. Là, tu sais, les produits atypiques, là, tu connais peut-être.
Oui, ouais, non, mais c'est très à la mode. Là. Tu fais un party, depuis. Dans la dernière année, là, si tu fais un party, ça n'existait pas, puis c'est apparu dans tous les parties.
Aille, c'est ça. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça c'est pas 50% du marché, mais tu sais, ça vient gruger encore une fois quelques dizaines de milliers de bouteilles qui étaient jadis vendues par ces distilleurs-là. Donc, ils sont plus nombreux, il y a plus d'offres sur le marché. Donc, ça crée une pression et ça mène à parfois des difficultés financières.
Et finalement, tu nous parles des contrats fédéraux à McKinsey qui continuent d'être étudiés à la Chambre des communes.
Ouais, je digère toujours pas ces histoires-là, Mario, et donc à chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir du nouveau dans le dossier,
Toi-même qui es un consultant, tu nous l'as déjà dit en nombre, je comprends pas que tu sois pas solidaire de d'autres firmes de consultants comme McKinsey.
Ouais, il y a deux choses là-dedans, Mario. Tu sais, quand on est un consultant, tu sais, en démarrage, puis beaucoup de firmes au Québec là, qui sont, tu sais, de 10, 15, 30 consultants, là, puis tu sais, je vais plus te nommer des noms, là, j'en connais beaucoup, ce sont des amis, mais tu sais, il faut jouer les règles, là, tu comprends, il y a des appels d'offres, il y a a des seuils d'appels d'offres, on perd souvent les appels d'offres, ça fait partie du jeu. Donc, de voir ces grandes firmes, déjà les grandes firmes qui ont des passe-droits, c'est un peu frustrant. Et évidemment, le fait que ce soit des firmes étrangères, là, ça rajoute un petit peu la problématique, dans la mesure surtout où on vient conseiller en matière de politique publique, là, de gouvernance de l'État. Et donc, dans le cas de McKinsey, on rappellera que depuis l'élection initiale de M. Trudeau, le nombre de contrats a carrément explosé là, de ce qui a été donné à McKinsey. On parle de 115 millions de dollars qui a été remis à cette seule firme-là.
Mais ça marche, il est tout le temps réélu, M. Trudeau, ça veut dire qu'il fait des bonnes politiques grâce à McKinsey, puis le peuple
ça
est satisfait.
Ouais, exactement. Mais, aujourd'hui, là, en soi, c'est pas une nouvelle qui fait donner des contrats à leurs copains de McKinsey, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que le secrétariat du Conseil du Trésor qui a commencé à faire des audits là, sur les documents là, de contrats, etc. Et ce qu'il révèle, c'est que il y a quand même de nombreuses non-conformités là, dans les procédures et les exigences administratives, c'est-à-dire des mandats qui sont donnés un petit peu comme des passe-droits de gré à gré, etc., par des ministères. Et donc, on sent bien là, qu'il y a quelque chose là, qui ne tourne pas rond là, dans la relation entre cette firme américaine et différents employés là, de la fonction publique fédérale. Et donc, on continue d'explorer la chose. La bonne nouvelle, là, en tout cas, je suis quand même pas pessimiste là, à ce point-là, Mario, mais c'est qu'il semble pas y avoir d'enjeu là, d'éthique, là, tu sais, en termes de valeurs et tout ça. Donc, il n'y a pas eu carrément de fraude là, ou de corruption, mais encore une fois, plutôt de l'ordre des passe-droits là, puis des règles d'attribution des contrats qui n'ont pas été tout à fait respectés. Et comme je te dis, c'est juste là-dessus, je pense que l'industrie est frustrée là, de voir ça.
J'ai une dernière question, je suis niaiseux, mais ils chargent-tu cher de l'heure, McKinsey?
Comme 1000 $ de l'heure.
Ah, OK. Comme... Je pensais que c'était cher. Ouais. Fait que dans le fond, si on allait en appel d'offres... Non, mais si on est là en appel d'offres, faudrait créer pour eux une nouvelle sorte d'appel d'offres, le plus haut soumissionnaire, c'est ça? Là, ils seraient sûrs d'avoir.
Ouais, c'est ça. Tu prends le plus cher parce que c'est probablement le meilleur. Et encore une fois, j'en ai vu à McKinsey, c'est une firme qui est admirée par de nombreux consultants. Mais encore une fois, de savoir qu'ils bénéficient des largesses du gouvernement, c'est toujours un peu frustrant.
Ça te frustre un peu, on sait. Hey, tu vas l'avoir. Le fait de te défrustrer le vendredi, tu vas passer une plus belle fin de semaine. Salut!
Très bon week-end à toi aussi et aux auditeurs qui nous écoutent. Salut.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Prendre Cube Radio. Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir... et comprendre. Cube Radio.
L'exercice lui-même,
Mario Dumont,
va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
Gérez donc ça, s'il vous plaît.
Isabelle Maréchal.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure.
La rencontre Maréchal Dumont.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Mario.
Tu as attentivement regardé le discours du président Biden. Il est en forme, le président, là. Il était heureux d'être au Canada.
Il était tellement content d'être au Canada, tellement content d'être en territoire ami. J'avais l'impression que c'était comme une sortie pas du tout protocolaire pour lui. C'est comme s'il se sentait chez lui, pas loin de la maison, avec son ami Justin, avec sa femme Sophie, bref... C'était vraiment une visite qui semblait le rendre très heureux. Il était très à l'aise. Il avait vraiment l'air content d'être là. Hein?
Quelques blagues.
Oui, mais même pas mal de blagues finalement. Je l'ai trouvé tellement American, tu sais, dans sa façon justement de blaguer, d'être un peu, tu sais, très cool dans son attitude, même avant, en se rendant quand Justin Trudeau lui a passé la parole, est allé le saluer, ils sont comme un peu rentrés dedans légèrement, tu sais, il aurait dû aller à droite, peut-être aller à gauche.
Pas fait, trop, pas fesse, trop.
Oui, c'est ça. Puis il avait l'air, c'était drôle, c'était vraiment drôle, il était en très, très, très grande forme. Bon, on voit que c'est un président quand même qui parfois trahit son âge dans son discours, mais tu sais, bon, c'est là où tu sais, en l'écoutant, je me disais peut-être un autre 4 ans parce qu'il prétend vouloir briguer un second mandat. Je pense que c'est peut-être un peu loin dans comme projet, mais je t'avoue que j'aurais des doutes là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve que c'est un président qui est quand même très, très en forme dans la mesure où il a été, tu sais, il nous a fait un pep talk. Moi, j'écoutais ça, puis je me suis surprise à me dire, bon, ben écoute, c'est ce qu'il faut pour les Américains et c'est ce qu'il faut aussi pour les Canadiens. On a envie, on a besoin, je pense, de se faire rappeler qu'on est deux nations pacifiques qui sont liées effectivement par un immense territoire, par une frontière qui n'en finit plus. On est deux grands pays démocrates, libres, tu sais, qui respectent, on respecte d'un côté comme de l'autre, peut-être plus d'un côté que de l'autre quand même, mais les droits humains, c'est des pays relativement sécuritaires, surtout le Canada. Il y a quand même, tu sais, il y a des choses qu'on partage et ça, d'entrée de jeu, c'est important de le dire. Mais j'ai beaucoup aimé, puis j'ai envie de te faire entendre, ça a été sa première phrase. Moi, j'ai beaucoup aimé que Joe Biden, puis c'est une certaine leçon pour tous les parlementaires qui étaient là, English only, j'ai beaucoup aimé sa première phrase, et j'ai envie qu'on l'entende, si tu veux bien, Mario.
Oui.
Ça a été en français.
Bonjour, Canada. I took 4 years of French in school.
Ben, c'est ça. Il a pas,
il dit qu'il a pris 4 ans de français mais que, à l'école, ça. Mais que ça n'a pas été suffisant. Là. Il a fait rire de lui non, la seule fois de sa vie qu'il a fait un discours en français.
C'est ça, mais on n'a pas entendu les applaudissements, mais sincèrement, tout le monde s'est levé, évidemment, du côté du... Les bloquistes se sont levés, les libéraux se sont levés, tous les francophones de la pièce se sont levés, tu comprends, et tout le monde était pas mal content de ça. Moi, j'étais contente que le président des États-Unis dise « Bonjour, Canada ». Je trouve que c'est gracieux de sa part de le faire. Et c'est aussi reconnaître le fait que le Canada est un pays où il y a deux langues officielles. Donc ça, déjà, je trouvais que ça me partait bien, tu vois. Puis après, ben, j'ai aimé, parce que rapidement, il a rappelé un peu ce que je te disais tout à l'heure, à quel point on était liés. Mais il a tout de suite dit à quel point, puis ça, je pense que c'est la phrase la plus importante. Si les gens veulent se dire qu'est-ce qu'on doit retenir de la visite de Joe Biden au Canada aujourd'hui, c'est que le président américain a réitéré que le Canada pourra toujours compter sur les États-Unis. Et c'est une phrase qui a une portée incroyable, parce que ça veut dire, puis on l'a vécu pendant la COVID, ça veut dire que c'est toutes nos chaînes d'approvisionnement qui ont quand même beaucoup souffert. On s'est rendu compte qu'on était beaucoup dépendants d'autres pays. Et ce que voulait dire Joe Biden, finalement, c'est que avec le Canada, les Américains, on devrait, en temps délicat, se rappeler qu'on est deux pays qui ont tout avantage à bénéficier l'un de l'autre. Et surtout au moment, bon, on sait que les Américains, que Joe Biden vient de faire voter son Inflation Reduction Act pour combattre l'inflation, qui est vraiment quelque chose qui bénéficie d'abord aux Américains, mais il y a quand même tout le Buy American Act aussi. Puis même François Legault là-dessus intervient et envoie ses messages. Et je pense que c'est bon pour le Canada qu'on se rappelle tout ça. Ce que disait le président américain, c'est qu'on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble d'un point de vue économique d'abord. C'est vraiment une visite économique, puis après une visite politique, bien sûr. Mais c'est surtout aussi pour rappeler qu'on a des liens économiques. C'est notre premier partenaire. C'est vraiment un partenaire important, mais on est aussi un partenaire important pour les Américains. Nos économies sont très, très liées. Il a donné souvent l'exemple des semi-conducteurs. Il a parlé pour nous. Moi, évidemment, je cherchais tous les appels un peu qui nous touchaient plus, nous, au Québec. Il a parlé de l'usine d'IBM à Bromont. Il expliquait que les semi-conducteurs qui étaient fabriqués au Vermont étaient ensuite amenés à Bromont. Et il a parlé de tous ces nouveaux milliards d'argent neuf, de nouveaux investissements, 100 milliards dans l'État de New York, 20 milliards dans l'Ohio, et qui vont vouloir dire des emplois payants en technologie, payants pour la classe moyenne. Il a rappelé ce qu'on dit souvent, hein, ce qu'on doit réaffirmer, c'est-à-dire qu'une classe moyenne forte, ben c'est bon pour tout le monde. Donc, il dit, il va y en avoir des emplois pour les Américains puis pour les Canadiens. Écoute, Justin Trudeau, il devait jubiler, tu comprends? Il était...
Mais là, j'allais t'amener là. Justin Trudeau, il doit jubiler tout court, attends, Isabelle. Lui, là, dans son...
Il vit le plus beau moment de son année, je pense. Là.
Ben, depuis le 1er janvier, regarde les dossiers. Fais la revue de presse depuis le 1er janvier, là, tout ce qu'il y a eu. Et là, il y a comme une journée. Écoute, c'est une journée en or. Là. C'est une journée brodée d'or. Il va annoncer la fermeture du chemin Roxham à minuit. Voilà. A l'air fort côte à côte avec Joe Biden. C'est merveilleux politiquement pour lui.
C'est merveilleux. Puis sincèrement, tu sais, je te parle surtout du discours du président américain, mais je pourrais te parler du discours de Justin Trudeau. Sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé son ton, j'ai aimé ce qu'il disait. J'ai aimé qu'il rappelle aussi ce que fait le Canada un peu partout en matière de sauvegarde des droits humains. Il a parlé de l'ingérence. Ben, c'était tout en filigrane. C'était un discours très politique, à saveur économique lui aussi. C'était très électoral comme ton, là, tu sais, je pense qu'il doit se faire rappeler tous les jours qu'il est en position minoritaire puis qu'il a intérêt à ne plus perdre de plumes parce que ça ira mal tout à l'heure, mais je pense qu'il a gagné beaucoup de points aujourd'hui, Justin Trudeau. Et tu as nommé le chemin Roxham. Écoute, le Canada et les États-Unis qui se sont entendus pour finalement mettre en application la fameuse entente sur les tiers pays sûrs. Sur l'ensemble de la frontière canadienne-américaine, là, ça vient confirmer la fermeture officielle ce soir à minuit du chemin Roxham. Puis le deal, il est très simple à compliquer. Il est très simple à comprendre, c'est pas compliqué. On avait 40 000, l'an dernier, là, il y a à peu près 40 000 migrants qui ont traversé au chemin Roxham au Québec. Là, l'entente, c'est que le Canada s'est engagé à en accueillir 15 000 officiellement via la frontière officielle. Alors, ça, je pense que c'est un bon deal. T'sais. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on savait pas, c'est que... Tu sais, moi, je pense qu'on a sous-estimé le fait que le gouvernement fédéral canadien travaillait là-dessus. T'sais. Je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui revient, mais rendre à Justin ce qui lui revient. Mais tu sais, c'était évident qu'il fallait qu'il se passe quelque chose.
Ouais. Mais tu sais, quand on... Mais pour revenir à Justin, si on avait... Il y a un mois jour pour jour, mettons, le 24 février... Si on avait lancé sur la place publique une gageure, là, qui gage que Justin Trudeau va réussir? Il n'y a pas eu beaucoup de preneurs, d'après moi. Là. Non, donc, il a réussi là où les gens ne l'attendaient pas.
Non, mais on aurait... Tu sais, sincèrement, t'sais, on peut tous faire notre mea culpa, là, puis je pense que les citoyens aussi. Personne n'y croyait, Mario. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on est pogné que cette patate chaude qu'est le chemin Roxham, qui d'ailleurs s'était transformé quasiment en petite ville qui était autosuffisante. Là, on s'est installé, on avait mis des baraques, des maisons, il y avait des... C'était devenu quelque chose de très officiel. Fait que ce qu'on avait tous compris, c'était que pour Justin Trudeau, ça allait continuer comme ça. On n'avait pas compris que qu'il s'en servirait comme une stratégie politique, finalement, parce que je sais pas si c'était son but, mais disons qu'en tout cas, ça l'aide drôlement politiquement. Puis il y a bien besoin de ce dossier-là de régler, parce que quant au reste, c'est pas glorieux quand même. Il y a tout, il y a comme, en filigrane, je te disais qu'il avait parlé un peu de l'ingérence de certains pays. C'est clair qu'il faisait référence à la Chine. Il y avait d'ailleurs les deux Michael qui étaient là, les deux hommes qui ont été, qui ont fait 1000 jours.
Je pense que le symbole de ça, c'est quoi? Ouais. Je pense que le symbole, c'est que le président Biden, là, la vérité, il a aidé pas mal là, pour les faire sortir.
Tellement. Mais en ce moment, disons que c'est une visite rassurante aussi. Mais en même temps, Joe Biden, il était tellement américain. Puis ils ont beau vouloir être ouverts et pas arrogants et pas suffisants, il n'a pas pu s'empêcher de nous rappeler que les 87% des Américains avaient une très, très bonne opinion des Canadiens. C'est un peu quand même paternaliste de dire ça, je trouvais. Nous, on ne nous a pas demandé l'opinion qu'on avait des Américains, mais puis quand même, j'ai trouvé ça un peu amusant qu'il en profite. Il en a d'ailleurs profité pour dire que c'était un peu plus qu'à l'époque de son prédécesseur. J'avoue que j'ai peut-être un peu contribué. Est-ce que ça soit encore mieux que la dernière fois où on a demandé l'avis des Américains? Mais sincèrement, puis il a aussi dit, puis ça je tiens à le préciser parce que je regardais ma télévision puis j'en revenais juste pas qu'au moment où Joe Biden a dit, et comme le premier ministre canadien, nous... au gouvernement américain, nous avons plus de 50% de, de femmes qui sont en politique. Et là, tout le monde a applaudi, sauf le côté des conservateurs. Personne, tout le monde s'est levé, sauf les conservateurs. Paul Ryan est resté assis. Et là, le président américain a dit, écoutez, les boys, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, debout, levez-vous. J'ai trouvé ça très, très bon. Ça m'a fait bien rire.
Hey Isabelle, ben merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi.
Ben, pareillement. Merci, Mario.
Bye-bye à lundi.
Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
C'est un débat important, sensible, qui passionnait à certains moments, qu'a lancé Ginette Renault et son agent promoteur Nicolas Lemieux, alors que Mme Renault, dont on imagine que le prochain album et le livre, la biographie, va se vendre à profusion, ben on a dit ça va être vendu juste dans les gens coutus. Et pas dans les librairies, pas ailleurs, juste dans les gens coutus, dans une entente. Et là, on pourrait dire dans le monde artistique, dans le monde culturel, on imaginerait la levée de boucliers, mais dans une entente où l'auteur ramasse une partie nettement plus significative qu'ailleurs des sommes, où on laisse beaucoup, mais pas quelques sous, là, beaucoup plus à l'auteur, de telle sorte que, ben là, c'est le plan artistique, c'est pas supposé être ça que tu veux, hein? C'est pas supposé être dans le monde des arts la chose la plus recherchée, là, ce qu'on reproche au streaming de toutes sortes, là. C'est de, par exemple, dans le monde de la musique, ce qu'on reproche à Spotify et autres, c'est de pas en laisser assez aux artistes. Et là, donc, on a un agent qui va maximiser ce qu'il va recueillir son artiste. Mais il y a une complication, imaginez-vous donc, qui vient avec ça. C'est qu'il y a une loi, une règle gouvernementale qui fait que les bibliothèques, les écoles publiques, tout ce qui est public doit encourager les librairies. Et donc, ben, il n'y aura pas de la biographie de Ginette Renault, si je comprends bien, dans les bibliothèques publiques. Ève Lagacé est directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Bonjour, Mme Lagacé.
Bonjour, M. Dumont.
Vos clients, les gens qui vont dans la bibliothèque municipale et autres, vont être déçus?
Oui, effectivement, ils vont être déçus. C'est certain que il y a des citoyens, des usagers de bibliothèques qui vont vouloir lire le livre de Mme Renault.
Et qui vont vous la demander à la porte, là, au comptoir?
Oui, 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 absolument, absolument. Donc, c'est certain que dans les premiers temps, on fera des déçus, assurément.
Mais il n'y a pas de compromis là-dessus. Il n'y en aura pas, c'est ça, puis c'est tout.
Ben, en fait, si on veut respecter la loi, évidemment, ben, les municipalités, les bibliothèques publiques sont des services municipaux. Donc, oui, les municipalités sont tenues, évidemment, là, de respecter la loi, qui est la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Et j'aurais même tendance à vous dire que malgré le fait que cette loi-là ne soit pas parfaite, de façon majoritaire, là, nos bibliothèques sont bien d'accord avec l'existence de cette dite loi.
Donc ça, c'est une loi qui a été mise en place il y a quelques années, à l'époque où on s'est inquiété de la survie des librairies indépendantes.
Ben en fait, c'est de toute la chaîne du livre du Québec. Donc cette loi-là, en fait, couvre les librairies, oui, mais les éditeurs, les distributeurs également. Donc en fait, ça fait en sorte que dans un marché particulier, comme le marché qui est celui du Québec, donc on connaît la situation là, un territoire francophone dans un bassin anglophone. Donc notre marché est somme toute petit. Donc oui, cette loi-là est nécessaire pour s'assurer d'avoir.
Qu'est-ce qu'elle dit cette loi-là pour une bibliothèque municipale, mettons, pour n'importe quelle ville dans le Québec, qu'est-ce que la loi lui dit?
En gros, pour la bibliothèque, les obligations sont de venir faire les acquisitions dans une librairie qu'on appelle agréée. Donc, il a reçu l'agrément du ministère de la Culture et des Communications. Et on doit faire les acquisitions dans un minimum de 3 différentes librairies agréées qui se retrouvent sur le territoire de notre région.
Donc, une bibliothèque municipale à Trois-Rivières ou à Shawinigan doit acheter ses livres dans 3 librairies différentes de la région de la Mauricie, par exemple.
Exactement, c'est en plein ça. Exactement.
Et elle peut pas les acheter dans un Costco, peut pas. La bibliothèque municipale peut pas acheter dans un Costco, une pharmacie ou n'importe quel type d'autres magasins qui vendent des livres. Ça doit être à la librairie pour encourager les libraires.
Oui, bien, pour encourager les libraires, et je le répète, toute la chaîne du livre, parce que tout ça, toute cette loi-là, en fait, se tient. Là. Il fait en sorte que chacun des acteurs qui a une contribution. On comprend pour l'extérieur, ça peut être difficile, ça peut être complexe à comprendre, mais chacun des acteurs a réellement un rôle à apporter. Et même pour nous, pour les du côté des librairies, on reçoit des services aux collectivités qui sont importants de la part des librairies avec qui on fait affaire. Donc, ce travail-là aussi a une valeur. Donc, on comprend évidemment l'aspect des créateurs et de la portion qui peut sembler faible, qui retourne à l'auteur. Mais bon, c'est sûr, nous, on travaille pour les bibliothèques, mais on comprend aussi la logique qui est derrière ça et on y adhère.
Mais avez-vous l'impression que Mme Renault a commis un crime de lèse-industrie?
Ben, c'est certain. Il y a peut-être une incompréhension là, de ce que j'en comprends. Il y a peut-être une incompréhension du rôle de l'éditeur, distributeur et des librairies là, qui est fait. C'est ce que j'en comprends.
Elle comprend mal?
Oui.
Non, mais qu'est-ce qu'elle a à comprendre d'autre? Elle, pourquoi l'auteur ne recevrait pas un maximum de redevances? Par exemple, c'est le but de l'art?
Ben, je comprends, mais chacun des maillons de la chaîne du livre, en fait, apporte une valeur et prend un certain risque aussi. Si on pense juste au libraire, par exemple, il a des employés lui-même à payer, bon, etc. Là. Donc, chaque maillon, évidemment, là, a son rôle et a évidemment des frais. Mais je comprends la volonté du créateur de vouloir aller chercher le maximum pour lui-même. Là, on le comprend.
Mais vous comprenez qu'ils viennent de lancer une bombe dans l'industrie? Parce que moi, j'écoute autour de moi, là, j'en connais pas mal de gens qui ont écrit des livres ou qui écrivent des livres. Et ils sont tous d'accord avec elle. Ils disent tous, hey, c'est ça qu'on va faire, on va s'arranger. Si on était capable, c'est la meilleure chose, ça n'a pas de bon sens. Il y a une frustration là, de ceux qui ont fait des livres. Par exemple, de passer un an de sa vie discipliné, 3 heures par jour, écrire, peaufiner, réviser, puis recevoir des peanuts là-dessus, là, puis toute une industrie. Il y a une impression que plein d'autres mondes font de l'argent avec ton œuvre, puis toi, t'en ramasses peu.
Oui, ben je la comprends, cette frustration-là, vraiment. Ceci étant, on est dans un milieu de, je le répète, le Québec est quand même un marché qui est somme toute fragile, et dans les dernières années, même si la loi n'est pas parfaite, l'esprit de la loi est vraiment basé sur des bonnes intentions de faire en sorte qu'on ait des produits culturels québécois de qualité, des livres québécois, enfin, je dis des produits culturels, mais là, ça, c'est vraiment dans l'industrie du livre, donc des livres québécois de qualité, puis vraiment de s'assurer d'avoir ce qu'on appelle une bibliodiversité, c'est-à-dire une diversité de types de livres, de types d'auteurs partout. Donc là, on parle du cas de Madame Renault, qui va être un best-seller, là, donc qui va très bien se vendre. Mais si on n'avait pas cette loi-là au Québec, ça voudrait dire que de plus petits auteurs qui ont peut-être des produits nichés, un livre niché, ne pourraient simplement pas être publié, mm-hmm. Ça ne fonctionnerait tout simplement pas. Donc ça, c'est les avantages qu'a cette loi-là. Ça nous permet d'avoir des livres qui vont être sur des sujets plus particuliers. On va prendre des risques davantage, ce qui ne serait pas le cas si elle n'existait pas.
Je comprends bien ce que vous nous dites, mais je pense quand même qu'il y a tout un débat, qu'on le veuille ou non, il y a tout un débat qui vient d'être lancé dans l'industrie. Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, merci d'avoir été là.
Merci à vous.
Au revoir.
Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, Joe Biden est en visite à Ottawa et fait un discours devant la Chambre des communes. Airbnb retirera toutes ses annonces illégales au Québec. Vague de vol dans les quincailleries québécoises. Et un documentaire français présente le Québec comme un endroit rempli de chauffards.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Évidemment, tous les yeux sont rivés aujourd'hui à Ottawa avec le président américain Joe Biden, considéré là, ce poste qu'on surnomme souvent l'homme le plus puissant sur Terre, qui est en visite à Ottawa. Il a
tout cas, c'est l'homme le plus protégé sur Terre, si on se fie à la sécurité à Ottawa.
Oh,
ça doit venir avec l'homme le plus puissant, je présume. Là.
Ouais, la longue file de Suburban noir, là, ces véhicules qui sont souvent utilisés justement là, par les dignitaires, les hauts fonctionnaires américains. américains, dont le président, qui se sont promenés là, toute la journée depuis hier là, à Ottawa. Des mesures de sécurité extrêmement renforcées, bien sûr. On a boucler la place au grand complet. Il y a des clôtures, des blocs de béton, des agents postés sur les toits un peu partout. C'est un grand déploiement pour un grand moment tout de même. La première visite officielle de Joe Biden ici. Dans quelques instants, un point de presse conjoint Trudeau-Biden devrait avoir lieu. On essaiera peut-être de vous en faire écouter un extrait en direct. Sinon, c'était plutôt ce discours-là, plutôt ces discours, le premier de ce Justin Trudeau, suivi par Joe Biden, qui a dit quand même quelques mots qui ont fait applaudir dans la Chambre des communes. On peut écouter.
Good afternoon. Bonjour, Canada. I took 4 years of French in school. First time I attempted to make a speech in French, I was laughed at. So that's as good as I can get right now.
Donc, il a affirmé, avec un beau bonjour Canada, affirmé avoir pris 4 ans de cours de français, mais dit qu'il s'était fait rire de lui chaque fois qu'il avait essayé de faire un discours en français, donc a poursuivi en anglais. C'est un beau clin d'œil quand même à la dualité linguistique du Canada, mais surtout un ton quand même humoristique, rieur, énergétique.
Petit clin d'œil au hockey, aux Leafs.
Petit clin d'œil au hockey, il a dit qu'il détestait les Maple Leafs de Toronto, ils ont battu les Flyers de Philadelphie, l'équipe de sa femme Jill Biden, plutôt dans l'année. Bref, le ton était vraiment bien placé, là. Bonne entente, bon enfant, bonne humeur.
Général, comme un discours généreux et général, je dirais, c'est-à-dire on est des peuples amis, on leur a dit de toutes les façons qu'on est des amis, on est là pour vous, etc.
Oui, c'était particulièrement
les éléments de contenu, je suppose qu'on les garde pour la conférence de presse, parce qu'on aurait pu penser que dans son discours, il y a des éléments plus économiques ou des éléments qui vont revenir plus en détail dans la conférence de presse, mais que déjà ils donnent certains. Mais on est resté dans le général, dans l'expression d'une amitié puis de valeurs communes.
Oui, absolument. On a réitéré entre autres l'engagement en Ukraine ensemble du Canada et des États-Unis pour faire face à la Russie de Vladimir Poutine. Il n'a pas hésité non plus, il n'a pas mâché ses mots, le président Biden, en parlant de Vladimir Poutine qui commettrait ni plus ni moins que des crimes de guerre en Ukraine. Et par la suite, il a parlé un peu, là, les points les plus généraux, mais qui étaient visés quand même. On parle d'économie, de commerce. Parlait entre autres d'énergie, l'avenir énergétique du continent, disant que le Canada pourrait jouer un grand rôle dans tout ça puis que les perspectives sont extrêmement intéressantes. Il y avait aussi des invités de marque qui étaient présents là, dans la Chambre des communes, Mario. Les deux Michael Spavor et Michael Covering, qui sont ces deux diplomates qui ont été emprisonnés par le régime chinois en 2019, 2 ans de temps emprisonnés par le régime communiste en Chine, qui étaient présents.
Je crois sincèrement que, oui, c'était bien qu'ils soient là, le symbole était fort, mais qu'il y a aussi une espèce de fleur au président Biden qui a, je pense qu'il a joué un rôle majeur, je suis même pas sûr qu'on nous dit complètement. On savait que le président Biden avait joué un rôle majeur, mais je suis convaincu que le sous-entendu, c'est comme à Joe Biden, garde merci, et de les amener là, c'est comme la symbolique de reconnaître le rôle précieux qu'il a joué, lui, dans leur libération.
Oui, il serait peut-être pas assis à cet endroit-là si Joe Biden n'était pas intervenu, très certainement. Puis évidemment, dans un contexte où on se méfie du gouvernement communiste chinois, un moment où on parle d'ingérence électorale également, beaucoup du régime ici au Canada, c'était quand même très, très symbolique de les avoir. Ils ont droit à 2 ovations là, de l'ensemble là, des députés de la députation qui étaient présentes. Et les activités donc qui vont se poursuivre et qui sont en cours depuis hier. Là, on a eu droit à la résidence Cottage, là, à un bel, disons, là, une belle séance de photos. Hein, le président qui était avec Justin Trudeau, sa famille. Il y avait également le gouverneur général Mary Simon qui était présente sur place. Et aujourd'hui, ben, il y a eu le temps de passer et de saluer les membres de l'opposition. Tous. Non, Marion, il manquait quelqu'un quand même aujourd'hui, quelqu'un d'important.
C'est, c'est surtout ce soir qu'il va manquer quelqu'un, là. C'est au dîner d'État. Et là, il y a un imbroglio, malaise, disons, parce que le bureau de Pierre Poilievre semble affirmer qu'ils n'ont pas reçu d'invitation. Pourtant, à première vue, là, tous les chefs de l'opposition sont invités.
Ouais, jusqu'à Elisabeth May qui est là.
Ils seront. Yves-François Blanchet va être là, Jacques Metzing va être là, Elisabeth May va être là. Donc, ils seront là au dîner officiel, au grand dîner d'État ce soir. Et Pierre Poilievre dit ne pas avoir reçu d'invitation. On dit à son bureau ne pas retrouver d'invitation. Du côté de Justin Trudeau, on laisse entendre que M. Poilievre, soit idéologiquement ou par manque de politesse, fait un affront, ne sera pas là pour le dîner officiel du président américain. pas facile, là, tu sais. Moi, je veux dire, je suis analyste politique, là, à mes heures. Je suis pas le juge Salomon, puis tu sais, dans le sens qui nous ment, qui a raison, qui dit vrai, devant la visite, c'est sincèrement, j'ai pas le goût de trancher cette question-là, mais c'est plutôt l'effet d'ensemble. C'est comme, c'est gênant, là. C'est comme des enfants qui se chicanent, qui tirent un cornichon sur la table pendant la phase de la visite, là. C'est pas terrible. Je comprends mal là, ce qui a pu se passer de part et d'autre. Je comprends mal à la limite qu'à minuit moins une, on n'ait pas réussi à trouver une façon de dire, ben là, regarde, là, libère-toi, puis viens, puis on va te trouver une bonne place à la table, puis on chicanera à part. Tu sais, on chicanera lundi prochain à ce propos-là. Là. Mais non, toute la journée, là, en filigrane de la visite, il y a ce malaise entre le chef de l'opposition et le bureau du premier ministre. Puis là, écoute, il y en a un des deux qui nous dit pas la vérité, ou sinon c'est un méga imbroglio, là, un quiproquo, comme on dit, mais ma foi, je trouve que c'est un gros malaise.
Absolument. À l'instant même où on se parle, Mario, Justin Trudeau vient de prendre la parole. Lui et Joe Biden viennent d'arriver côte à côte au lutrin. On peut en écouter un petit extrait.
Oui. Entre le Canada et les États-Unis.
Aujourd'hui, avec le président Biden, on a avancé sur plusieurs dossiers importants. J'aimerais parler plus particulièrement de certaines de nos priorités communes. Faire croître la classe moyenne, renforcer l'économie et rendre la vie plus abordable pour les gens. Lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement et protéger nos citoyens et nos valeurs. In this serious time, with all the challenges
Dans ces moments
we face,
sérieux, avec tous les défis auxquels on fait face, nous redoublons.
Ouais, dans les annonces qu'on attend, Alexandre, il est maintenant acquis là que ils vont dans les prochaines minutes là annoncer la fermeture du chemin Roxane.
Ouais, absolument, c'était là peut-être l'annonce qui a filtré le plus durant la semaine. Déjà Justin Trudeau avait été cryptique un peu en parlant qu'il allait peut-être avoir quelque chose à annoncer plus tard avec le président Biden par rapport au chemin Roxane, mais on sait désormais là, ça a déjà filtré que ce soir à minuit la fermeture du chemin Roxane devrait entrer en vigueur et donc les demandeurs d'asile qui voudraient traverser la frontière de manière illégale vont être refoulés. Dans l'entente, là, dont les détails doivent être rendus publics dans quelques instants, on dit que le Canada devrait prévoir 15 000 places pour des migrants des Amériques qui veulent entrer légalement dans le pays. Donc ça sera à définir également là, autour de tout ça, qu'est-ce qui comprend là, ces migrants des Amériques. Là, on se rappellera que l'année passée, c'est près de 40 000 migrants qui sont passés illégalement par le chemin Roxane.
Donc, mais là, le Canada, en échange de la fermeture du chemin Roxane et de la surveillance par les deux pays, mais notamment par les Américains, ça veut dire qu'eux, ils ne laisseront plus eux passer. Le Canada s'engage à accueillir 15 000 migrants, mais par des voies officielles. Et au-delà du nombre, oui, le nombre est moindre, mais il y a autre chose, c'est que ça va être un peu plus faisable pour le Canada, parce que là, au chemin Roxham, ils arrivaient tous au Québec. Là. Ils arrivaient tous en Montérégie, ils arrivaient 100% arrivaient au Québec, ou à peu près, là, 99%. Là, ça va être pas mal plus faisable pour le gouvernement canadien de répartir à travers le Canada, de dire, bon, ben là, on sait qu'on en reçoit 15 000 par année, on accepte d'en accueillir 15 000 par année, des gens qui sont mal pris, qui méritent vraiment d'être accueillis comme réfugiés, et donc on va pouvoir les distribuer en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario. Oui, le Québec doit toujours faire sa part, là, mais pas le Québec qui fait presque tout l'effort, en fait. Depuis seulement quelques semaines ou quelques mois, on en envoie un peu par autobus vers l'Ontario. Sinon, depuis 4 ans, c'est le Québec qui a accueilli tout le flot.
Ouais, et l'autre annonce là qui s'en vient, alors qu'on voit que M. Trudeau parle d'un groupe conjoint énergétique avec les États-Unis, là, dont on aura certainement là, plus de détails un peu plus tard, c'est cette annonce sur Haïti aussi. Là. Depuis un moment, déjà, les États-Unis font pression sur le Canada pour qu'on prenne la tête d'une force internationale d'intervention, donc une intervention militaire, ni plus ni moins, qui se rendrait sur l'île d'Haïti pour tenter de restaurer la paix, alors qu'il y a des gangs armés criminels qui ont pris possession là, de plusieurs régions du pays qui font régner la terreur dans ces endroits-là. On était frileux, disons, du côté même des forces armées canadiennes à vouloir se rendre sur place. Finalement, on parlerait plutôt de 100 millions de dollars qui seraient investis par le Canada pour aider les forces de sécurité en Haïti directement. Donc, ce serait plutôt un investissement comme ça d'entraînement, de temps, d'équipement et autres, plutôt qu'une intervention militaire directe. Ça aussi, c'est quand même un beau compromis pour Justin Trudeau vis-à-vis ce qui était demandé au départ, Mario.
Oui, parce qu'au départ, les Américains voulaient carrément une intervention militaire dont le leadership aurait été le Canada. il y avait, je pense, deux, trois problèmes. Au moins deux gros problèmes avec ça au Canada. Le premier, c'est que je pense qu'on n'y croyait pas vraiment, là, que c'était la meilleure chose à faire. Il y a déjà eu, on a déjà expérimenté l'intervention militaire en Haïti avec, des, disons, des succès mitigés. Puis je pense que, compte tenu de l'effort qui est déjà demandé aux militaires canadiens, là, les exercices de l'OTAN en lien avec la guerre en Ukraine et le reste, on n'a plus trop de marge de manœuvre, là, ni du point de vue de l'équipement, ni du niveau humain, là, des troupes. Je pense plus qu'on avait les capacités opérationnelles pour l'armée canadienne de se lancer dans une autre opération, ben, politiquement une opération. Je veux dire, c'est des groupes armés là, qui mènent, des groupes de bandits qui mènent, qui terrorisent le monde en Haïti. Si l'armée canadienne débarque là pour essayer de remettre de l'ordre là-dedans, je dis pas que ça se fait pas, mais il va y avoir des morts, là. Tu vas rapatrier, comme on a connu en Afghanistan, ou comme on a connu dans d'autres missions, là, tu vas rapatrier des soldats dans un sac, là, dans un avion funéraire. Là. Et c'est pas... politiquement, il faut que la population locale approuve pleinement la mission. Donc, M. Trudeau en était pas là. Et je pense qu'il semble avoir gagné son point. Il semble avoir là-dessus aussi convaincu les Américains. Oui, il va faire son effort, mais va pas se retrouver là, dans l'opération militaire qu'initialement les Américains voulaient.
Bien évidemment, on continuera de suivre cette conférence. Là, en ce moment, Justin Trudeau qui annonce que c'est confirmé, les migrants illégaux seront refoulés au chemin Roxham à partir de minuit. Donc, une visite importante en ce moment, puis qui va continuer de se dérouler tout au long de la journée. Sinon, gros dossier, évidemment, là, de la dernière semaine, c'est Airbnb. Et après une rencontre hier avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le directeur régional d'Airbnb, Nathan Rothman, a envoyé une missive à la ministre en disant que la plateforme allait se conformer aux règles du Québec et promet donc de retirer toutes les annonces de logements qui ne sont pas enregistrées auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. On va donc, dès qu'on veut être locataire pour Airbnb, devoir fournir un numéro d'enregistrement et afficher donc une nouvelle annonce. Airbnb est censé, de son côté, faire le tri dans les annonces existantes. Finalement, ça n'a pas trop traîné, tout ça, Mario, là.
Non, ça n'a vraiment pas traîné. J'ai quand même des questions, et c'est quelque chose là, qu'annonce Airbnb. Ça veut dire qu'eux-mêmes, je ne sais pas technologiquement, c'est probablement peut-être plus facile que je pense, ça veut dire qu'eux-mêmes vont faire le tri, là, que ceux qui n'ont pas leur numéro d'enregistrement ne pourront pas annoncer. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont déjà fait une réservation? Mettons, quelqu'un qui n'a pas son numéro puis qui loue un appartement là, dans le Vieux-Montréal. Mais là, l'appartement, probablement, là, on est aujourd'hui là, quoi, le 24 mars. Mais probablement que l'appartement, il est loué la semaine prochaine. Il est loué tout le début avril. Il est loué des gens d'Europe, des États-Unis, de partout, là, qui se sont réservés. On va aller passer 4 jours à Montréal. On va se promener au Canada. Voyage de 2 semaines au Canada, on va passer 4 jours à Montréal. Puis on a réservé un appartement dans le Vieux-Montréal. Est-ce que ces gens-là vont recevoir une notification? Mettons qu'ils l'ont réservé, ils ont planifié un couple, ont planifié leur voyage dans le temps des fêtes là, pour le mois d'avril. Puis là, depuis le temps des fêtes, tout le voyage est tout bien organisé, là, puis un beau 4 jours dans un appartement à Montréal. On va leur envoyer une note. Ah ben là, ton appartement est rendu illégal, bye, t'as plus rien.
Oui.
Ou mais on va tolérer, ou le tolère, il y en a qui sont réservés longtemps d'avant. À mon avis, il y a des difficultés opérationnelles là, qui sont liées à ça. Peut-être qu'Airbnb nous donnera des détails. Mais, puis, je pense que Airbnb a cette responsabilité-là, là, comme grand joueur corporatif, là, de s'assurer de faciliter le respect des lois avec le gouvernement. Ça, je suis correct avec ça. Mais il y a un point, de rupture. Là, c'est-à-dire que c'est pas Airbnb qui est responsable des morts dans le Vieux-Montréal.
Ouais.
D'abord, s'il y a un incendie criminel, le premier responsable, c'est le criminel qui a fait ça. La deuxième responsabilité, c'est le propriétaire du building. Je m'excuse, mais mettons qu'il n'y a aucun Airbnb dans ce building-là. Puis c'est juste des vrais locataires. Ben, il y aurait eu plus de morts. Ouais. Il aurait été coincé dans les mêmes circonstances du même incendie. Puis, c'est pas parce qu'ils étaient des locataires Airbnb qui sont morts. Là. Ils sont morts parce qu'ils ont été coincés, ils n'ont pas pu sortir. Il semble que le feu, la fumée, ça a évolué très vite. Alors, s'il y avait eu des vrais locataires, il y aurait probablement eu encore plus de monde. Il n'y aurait pas eu aucun logement vacant. Il y aurait peut-être eu... Fait que, tu sais, c'est la sécurité de l'édifice. Airbnb, c'est un site, c'est une application ou un site... c'est qui met en contact des gens qui ont quelque chose à louer avec des gens qui veulent aller en vacances dans une ville.
Mais ces logements-là existent déjà, là.
Ben oui, puis tu peux pas, s'ils sont pas conformes aux réglementations municipales, tu peux pas tenir responsable celui qui a mis en lien, là, qui a fait le lien de la transaction entre quelqu'un de Varsovie et quelqu'un de Montréal pour trouver un appartement. Tu peux pas le tenir responsable de l'état du logement ou de la non-conformité des détecteurs de fumée ou des sorties de secours. Donc, ça a permis de mettre en relief qu'il y avait un peu le Far West d'Airbnb et de remettre de l'ordre là-dedans. Mais il y a une limite à ce qu'on peut tenir responsable. Il y a un point où ça devient irrationnel. On dit, ah, ben là, c'était des Airbnb, c'était écœurant. T'as peu, là. Tu peux pas les tenir responsables partout sur Terre de l'état des bâtiments, là.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a affirmé aujourd'hui préparer une stratégie pour lutter contre la violence dans les écoles, réagissant entre autres à une interpellation au Salon Bleu à Québec de la députée libérale Marois Risky, qui est critique justement en éducation, qui, elle, a signalé une hausse des incidents violents partout au Québec. Le fait des demandes d'accès à l'information, et c'est des chiffres, Mario, qui sont assez frappants. Merci. Dans les écoles des régions, puis on dit régions parce que ce sont des données de la Sûreté du Québec, donc on exclut de base tous les grands centres qui ont leur propre police municipale. Mais il y a des centaines d'armes à feu et de couteaux qui ont été saisis dans des écoles primaires, des écoles secondaires au cours des 5 dernières années. Là. Seulement depuis le début de l'année scolaire en cours, donc depuis l'automne dernier, on parle de 18 carabines ou fusils, 13 armes de poing qui ont été saisies. Dans la même période, on a trouvé des dizaines de couteaux, des poings américains, du poison, du poivre de Cayenne également qui ont été saisis dans les écoles. Et la hausse des confiscations, là, ça augmente de chaque année. En 2019-2020, on était à 47 armes saisies et là, ça a augmenté. On était l'année suivante à 97, 116 deux ans plus tard. Donc, c'est en augmentation constante et c'est la même chose pour les gestes violents qui sont répertoriés ou qui ouvrent des dossiers à la Sûreté du Québec. On est encore en augmentation et je le rappelle, ce ne sont que les chiffres des endroits qui sont desservis où il y a des écoles où la Sûreté du Québec est présente. Et donc, on dit vouloir développer une stratégie du côté du ministère de l'Éducation pour contrer tout ça.
Mais ça va bien.
Ben, ça illustre vraiment, Mario, des problèmes.
On se demandait comment mieux enseigner le français, mais là, on en est à se demander comment on va faire pour qu'il y ait moins d'armes dans nos écoles.
Ouais. Gérer les armes dans les villes, d'accord, gérer les armes à Montréal.
Non, puis là, on s'entend que le territoire couvert par la Sûreté du Québec, c'est loin d'être le pire, parce qu'à mon avis, il y a fort à parier que c'est pire à Montréal.
Oui, alors, faudra voir un peu aussi, là, mais on a l'impression que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, Mario. Est-ce qu'on va trouver d'autres données encore plus alarmantes? Heureusement, là, on comprend que ça, c'est sûr que la police réussit à saisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui passent sous le radar aussi?
Bien possible.
Bien possible.
Que ce que la police saisit, c'est, comment dire, la pointe visible, la pointe de l'iceberg qui est visible.
Donc, c'est clairement un dossier qui sera beaucoup suivi là, dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Économie.
Triste nouvelle dans le monde du gin, Mario. La distillerie Saint-Laurent qui fait, avec son gin vedette, justement le gin Saint-Laurent, fait avec des algues du fleuve, d'où le nom, a affirmé être aux prises avec des dettes d'environ 13,5 millions de dollars. Ils se sont donc placés sous la protection de la loi sur les faillites. Ils vont donc devoir entreprendre des démarches avec leurs créanciers pour être capables de se maintenir à flot. Nouvelle surprise quand même, Mario, alors que c'est un gin qui est très populaire.
On dit souvent, il y a tellement aujourd'hui, de nos jours, de distillerie au Québec. C'est beau de voir ça. Il y en a dans toutes les régions, des gins, des vodkas, des liqueurs de toutes sortes. Mais sincèrement, Saint-Laurent, je ne dis pas que c'est les premiers, mais c'est parmi les premiers. Là. C'est vraiment parmi les pionniers qui ont développé l'idée qu'on pouvait faire des gins, des spiritueux originaux au Québec avec un esprit du terroir. Ils sont vraiment parmi les premiers.
Oui, puis surtout, c'est difficile d'avoir un produit plus local que les algues du fleuve Saint-Laurent. On s'entend.
C'est juste que l'histoire, c'est qu'ils ont voulu augmenter leur capacité de production et ils ont investi massivement dans une nouvelle usine l'année passée.
Un projet qui a eu beaucoup de dépassements de coûts, on le sait, tout ce qui est matériel,
on s'est entendu, qui est arrivé avec une vague de hausse des taux d'intérêt.
Ça a coûté 2 millions plus.
Si t'as emprunté l'année passée, tu t'es tiré un peu pour agrandir ton entreprise. T'avais peut-être pas planifié ce qui s'en venait, comme personne n'avait planifié, personne n'avait vu venir ce qui s'en venait comme tempête au niveau des hausses de taux d'intérêt.
Oui, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent, le Joël Pelletier, qui m'a signifié là, que c'est pas la fin là, pour distillerie Saint-Laurent, qu'il faut pas s'alarmer tout de suite, mais qu'il y a quand même beaucoup de négociations qui vont devoir être faites avec justement les créanciers, dont Investissement Québec et Desjardins Capital de Risque. Donc, ça va pas disparaître demain matin, mais c'est certain que c'est une bien mauvaise nouvelle, puis ça démontre, comme tu le dis, que le contexte économique, des fois, ça a frappé fort.
Le monde.
En France, ça continue de brasser. Il y a de plus en plus d'interpellations qui sont faites, alors qu'hier soir, on apprenait qu'il y avait 123 policiers au moins qui ont été blessés, attaqués pendant les manifestations. Tandis que d'un autre côté, il y a plusieurs endroits, dont le commissaire aux droits de l'homme du Conseil d'Europe qui s'est alarmé de l'usage excessif de la force entre les manifestants et les forces de l'ordre même. Et des images, Mario, qui sont pas réjouissantes. Hein. On pense entre autres à la porte de la mairie de Bordeaux qui était littéralement enflammé. T'as vu ces images-là comme moi?
Oui, absolument, mais il y a aussi, je veux dire, à Paris, là, les ordures, là, à part que c'est un party pour les rats, les ordures deviennent un outil pour monter des barricades, les tas de sacs d'ordures deviennent des outils pour monter des barricades, on met le feu là-dedans, là, on met le feu à pleine rue dans des tas d'ordures, entre toi et moi, mais tu sais pas ce qu'il peut y avoir là-dedans, tu peux être proche d'un bâtiment, il me semble que... Je sais pas, il me semble qu'on vit à risque.
Oui, absolument, même que du côté là, des ressortissants de l'ambassade des États-Unis, on n'a pas déconseillé les voyages en France, mais on appelle quand même les ressortissants américains à éviter les manifestations, à quitter les endroits qui sont proches des manifestations en question, et c'est les journaux, la presse internationale, Mario, qui réagit très fort. Là, on parle du quotidien El País, entre autres, qui a dit « La rage prend le dessus sur la rue en France ». Il y a d'autres pays, là, le Daily Telegraph en une... Au Royaume-Uni a titré parce que le roi Charles III a dû reporter sa visite, là, ni plus ni moins. Et ils ont pris en photo là, en première page un graffiti qui a été photographié sur les murs de Paris où il est écrit « Charles III, connaissez-vous la guillotine? » C'est certain que c'est assez glauque, merci. Ça donne pas beaucoup le goût aux gens d'aller visiter la ville de Paris, qui habituellement c'est la plus visitée au monde par les touristes. Et c'est certain qu'il va falloir que ça se calme, toute cette violence et cette escalation. Parlant de la France, Mario, un reportage français a été réalisé pour le compte de TV Orange, qui est sur la chaîne française W9. C'est une des 10 chaînes les plus écoutées là-bas en France. Et c'est ça s'appelle là, le titre de tout ça, c'est un documentaire « Route du Canada, alerte au blizzard québécois », Mario. Et on y présente la route 132, une route que tu connais bien, hein, pour t'être rendu très souvent jusqu'à ton patelin de Rivière-du-Loup, n'est-ce pas?
Ben, je prends la 20 quand même. Mais la 132, je la connais bien quand même. Je l'ai déjà pris, puis je la connais bien vers la Gaspésie. Je connais quand même pas mal la 132. Mais c'est quoi? Ils trouvent qu'on conduit mal? Ou que c'est l'hiver, c'est dangereux? Ou
Mario, c'est truffé d'exagération, de fausseté. J'ai ri en écoutant ça. C'est d'une exagération sans borne. On présente le Québec comme un endroit où les chauffeurs roulent à des vitesses de 200 km à l'heure, qu'on peut se faire tirer dessus par un chauffeur qui sort un flingue à tout bout de champ. On dit que c'est des scènes qui sont fréquentes au Canada. Et tout ce temps-là, on montre des images aux États-Unis. C'est jamais la 132. C'est des images d'archives qui proviennent des États-Unis. Je te laisse écouter, par exemple, là, le moment où ils commencent à parler de la 132 dans le documentaire.
Dans l'est du Canada, ces violentes tempêtes de neige ne préviennent jamais. Des rafales de vent à plus de 100 km/h soulèvent la neige et aveuglent les automobilistes. C'est ce que l'on appelle le blizzard.
Avec en trame de fond une musique dramatique, Mario.
Oui, c'est... mais là, les ridicules, là, je veux dire, quand il y a du vent de 100 km/h, je peux te dire, entre Matane et Sainte-Anne-des-Monts, là, il y a personne qui roule à 100 km/h. Tu vois pas 8 pieds devant toi. Fait que tu roules à 10 km/h, t'essaies de voir la ligne.
Ouais, et c'est honnêtement, ça vaut la peine d'aller l'écouter juste pour voir à quel point c'est ridicule. Là, la 132, la route la plus meurtrière au Canada. Puis on nous présente vraiment là, les Québécois comme des chauffards, des idiots, des matamores avec des flingues à tout bout de champ. Vraiment, c'était très peu élogieux.
Bon. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là.
La rencontre Latraverse Dumont.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, point de presse, je ne sais pas si c'est terminé. On a écouté des extraits tout à l'heure
non,
de M. Biden.
C'est en cours en ce moment.
C'est encore en cours. Qu'est-ce qui a été annoncé de bon?
Bien, ce qui a été annoncé, c'est essentiellement un peu formalisé, je pense, les signaux qu'a envoyé M. Biden dans son très généreux discours. Toute l'idée là, que les États-Unis sont ouverts, puis qu'on va vraiment travailler main dans la main pour essayer de mettre en place une chaîne d'approvisionnement conjointe pour les énergies vertes. Tu sais que c'est un de mes dada, le IRA, le plan industriel américain, les 400 milliards de subventions pour stimuler une création et le fait de développer des technologies comme les semi-conducteurs, etc., aux États-Unis pour ne plus dépendre de la Chine. Ben la réalité, c'est que le Canada veut une part du gâteau et donc il y avait de grandes craintes que cette politique industrielle soit avant tout protectionniste. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme si les États-Unis vont mettre de côté leur protectionnisme, mais le signal, c'est que oui, il y a une place pour le Canada là-dedans. Et ça, je pense que c'est, dans mon esprit, c'est le signal le plus important de cette visite-là. C'est sûr qu'on parle de Roxham, c'est sûr qu'on parle de défense, qu'on parle d'Haïti, mais objectivement, il n'y a rien de plus important que la prospérité et la croissance économique future des États-Unis, du Canada. Et de voir que les États-Unis nous ouvrent la porte parce qu'on a, on conceptualise finalement que cette alliance stratégique entre nos deux pays doit servir à quelque chose. On a des minéraux critiques, une expertise. Ben ça, c'est vraiment très, très, très important. Puis objectivement, je pense que c'est une des plus grosses victoires là, politiques de cette rencontre-là. Ce sont les signaux économiques qui vont avoir été envoyés. Donc, il y a un groupe de travail sur la transformation énergétique pour une durée d'un an qui est mis sur pied. Il y a du travail qui va être fait pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques. Et ça, c'est ce qu'attendait certainement le milieu des affaires et certainement toute la classe politique économique ici au Canada. Ça va aussi grandement rassurer, je pense, le premier ministre Legault et son ministre de l'économie, monsieur Fitzgibbon.
Oui. Ouais. Effectivement, on avait un peu négligé le dossier économique dans notre. Il y avait tellement d'autres éléments, mais on avait un peu le dossier économique qui était quand même l'élément clé probablement pour les gouvernements.
Oui, c'était les mentries. L'autre chose qu'on a appris ce matin, là, c'est que il y allait, tu sais, les États-Unis ont toujours tendance à trouver qu'on n'en fait pas assez avec raison sur le front de la défense nationale. Il y avait on attendait donc un engagement du Canada de faire mieux et plus vite en ce qui concerne la modernisation de NORAD. On a les détails de ce que ça veut dire. Faut comprendre que le gouvernement a annoncé l'an dernier 4,9 milliards de dollars pour moderniser nos systèmes de radars. Puis après ça, un autre 38 milliards, mais sur 20 ans pour moderniser le reste des infrastructures. Oh. Les Américains, ils disent, écoutez, les amis, là, avec maintenant la menace. Alors, ce qu'on apprend, là, ce qui est confirmé, c'est que le déploiement des fameux radars là, dans l'Arctique, au lieu de faire sur une période de 6 ans, ben ça va être fini 2 ans plus tôt. Donc ça, c'est vraiment, c'est le Canada qui répond aux pressions américaines et qui s'engage surtout à dépenser rapidement les 7 milliards de dollars que ça va coûter, mettre en place des infrastructures dans le Nord pour que nos F-35 qu'on vient d'acheter puissent être opérationnels là-bas. Parce que c'est beau avoir des F-35, mais d'un, ils ont un seul moteur. Ces avions-là, il faut être capable de les ravitailler, de s'en occuper, il faut avoir les infrastructures. Donc ça, le Canada s'engage à faire ça en termes de ce qui est précis, là, avant que les avions soient livrés. Donc ça aussi, c'est une accélération. Moi, c'est vraiment ce que je vois principalement de nouveau qu'on n'avait pas déjà annoncé.
Ouais.
Là, parce
mais sur ce qu'on, ce qu'on avait déjà annoncé là, ouais, sur Roxham, est-ce qu'ils ont précisé, expliqué? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce que le président Biden...
Ils en ont parlé comme j'entends non. Donc, j'ai pas exactement les détails, mais le 15 000 migrants de plus est confirmé, là. Ça, c'est vraiment le chiffre que le Canada va accueillir 15 000 migrants de plus en provenance de l'hémisphère occidental pour des motifs d'ordre humanitaire. Donc, c'est intéressant parce que c'est pas des gens qui vont être accueillis dans le cadre de notre système de réfugiés. Hein? Parce que des réfugiés, il faut que tu démontres que ta vie, que ta sécurité est en danger. Là, on va accueillir des migrants dans un programme humanitaire parce qu'objectivement, c'est le problème de cette crise des migrations en ce moment. C'est que ces gens-là qui viennent du Venezuela, qui viennent d'Haïti, qui viennent de Colombie, du Nicaragua, de Turquie, c'est pas qu'ils vont être en prison, c'est pas des réfugiés politiques comme dans le bon vieux temps, si tu me passes l'expression. Ce sont des gens qui fuient l'insécurité, qui fuient des sociétés invivables qui, de par la pauvreté, de par l'insécurité qui règne dans les rues en général, de par l'incapacité de trouver du logement, du travail, etc. Donc, on élargit d'une certaine façon la classe des gens, des demandeurs d'asile qu'on va reconnaître ici au Canada avec un programme là, de 15 000 d'entre eux qui seraient accueillis pour des motifs d'ordre humanitaire. Ça, c'est vraiment la chose nouvelle là, qu'on n'avait pas précisé là, juste ici.
En terminant, Emmanuel, voilà pour les annonces et les éléments de contenu. Il y a un petit imbroglio. Je pense pas qu'on va être en mesure de le démêler. Je dois avouer que moi, ça m'énerve sincèrement d'avoir à commenter ça parce que je comprends pas qu'on en arrive là. Puis je suis pas le juge Salomon quand on dit des versions contradictoires, mais Pierre Poilievre ne sera pas vraisemblablement au grand dîner d'État ce soir à l'honneur du président Biden. Du côté de Justin Trudeau, on laisse entendre les chefs des partis d'opposition étaient invités. À preuve, M. Blanchet, M. Singh et Mme May y seront. Seront à table ce soir, seront dans le grand dîner. Et Pierre Poilievre donc, aurait dit non. Donc, et là, du côté de Justin Trudeau, on coulait aux médias l'idée que vous voyez, là, il vient même pas, vous voyez ce qu'il est comme leader et tout ça. Et là, au bureau de Pierre Poilievre, on dit ne pas avoir reçu d'invitation, on se dit insulté, vexé, ne pas retrouver d'invitation à nulle part.
Ils l'ont trouvé, l'invitation, chez Pierre Poilievre, et il a confirmé à notre collègue Raymond Fillon que l'invitation a été envoyée à un compte courriel qu'il n'utilise plus depuis des années. Moi, je vais te dire, là, ça m'hallucine un petit peu. C'est le bureau du premier ministre. Le président des États-Unis débarque en ville, puis il n'y a personne qui prend le téléphone.
Il invite par un vieux courriel qu'ils n'utilisent plus.
Mais en même temps, c'est comme si... mais tu sais, moi, ça pourrait que quelqu'un m'invite à mon adresse Yahoo que j'ai pas utilisée depuis 15 ans, dont j'ai perdu le mot de passe. Là. Je ne sais pas, OK? Mais je pense que ce que ça révèle, c'est l'état du niveau de partisanerie qui existe dans ce Parlement.
Mais le résultat pour nous comme Canadiens, c'est que c'est gênant devant la visite, là. Total.
C'est gênant devant la visite que le bureau du premier ministre n'est pas capable de s'organiser pour que le chef de l'opposition soit là. C'est quand tu te rends compte qu'il ne vient pas, là, c'est surprenant que personne n'ait pris le téléphone pour dire « Comment ça, vous venez pas être sûr, tu sais? »
Bon, c'est comme s'il était content qu'il aille pas parce que ça permet de le planter, de dire qu'il y a une mauvaise foi. Mais je sais pas. Puis là, il est trop tard pour corriger ça. M. Poilievre pourrait pas se libérer dernière minute puis cirer ses souliers puis y aller, non? Trop tard?
Ben ça, je pense que oui, mais est-ce que les plans de table sont faits? Est-ce que... c'est absolument hallucinant là comme... comme situation. Je trouve ça très malheureux, je trouve ça très cheap, puis je trouve ça gênant. C'est pas sérieux.
Gênant, c'est le mot. Du point de vue de la population du Canada, devant la visite, excuse-moi d'utiliser cette expression-là, mais c'est nos mères qui nous ont élevé de même, là, de ce qui se fait pas devant la visite, hey, ça fait petit Canada, tata, médiocre, en chien, excuse-moi.
Mais c'est quand à Noël, là, t'invites des membres de ta famille dont t'es pas proche, puis t'as pas de nouvelles, généralement, tu prends le téléphone, tu sais. Ça existe encore, là, aux dernières nouvelles, tu sais.
Bon, fait que c'est ça l'explication.
On ne les voit pas à la Chambre des communes. Là. Alors, c'est ça l'explication, noir sur blanc, dans les notes que nous a envoyé Raymond Fillon. L'invitation a été envoyée à un compte courriel qu'il n'utilise plus depuis des années.
Bon, on va essayer de digérer cette explication. Emmanuel, bonne fin de semaine. Merci beaucoup.
Très bien, au revoir.
Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
Bonjour Jean-François.
Salut Mario.
Alors le Canadien qui n'a pas été ridiculisé hier par les Browns, là?
Loin de là. J'ai même pensé à notre discussion hier pendant le match et je me suis dit, est-ce qu'encore une fois, quand on les a cru morts, le Canadien va nous faire mentir? Parce qu'on va se le dire, là, on a eu le dessus sur les Browns de Boston hier. N'eût été de...
Ouais, mais peut-être... c'est le problème des mauvaises équipes contre les bonnes. Là. C'est comme un moment donné, les Browns s'assoient sur leurs mains, ils se font un effort pendant 5 minutes, puis c'est assez pour battre une mauvaise équipe. C'est aussi ça, là.
Oui. Puis je pense que les Browns ont mal travaillé hier. Là. Ils avaient décidé, je sais pas pourquoi, là, ça a brassé un petit peu en début de match, puis on dirait qu'il y avait plus la tête à nous frapper et tout ça qu'à jouer au hockey. Je te dis pas que les Browns ont joué un grand match, surtout qu'en prenant les devants 2-0, je pense que les autres se sont dit, ce soir, on n'aura pas besoin de forcer. T'as raison. Reste que j'ai trouvé que le Canadien, tu sais, je veux dire, non seulement on a tenu notre bout, mais c'est pas comme les autres matchs où on s'est fait dominer, mettons, au chapitre des tirs au but, en temps de possession, en
non,
temps de la zone adverse,
le Canadien
etc.
a dominé largement notre... En fait, excuse-moi de parler encore d'Allen, mais si Allen avait un taux d'arrêt puis il a laissé quand même rentrer un tir dans l'arrière du but, on a beau dire c'est une malchance, ça a dévié deux ouais. fois, mais je veux dire, il est pas prêt. Là, quand la rondelle est en dedans de 7-8 pieds de ton but, t'es un petit peu attentif, là, je veux dire... Je comprends qu'il y a de quoi sur l'écran géant qui se joue, là, mais t'es supposé.
Non, effectivement, celui-là, c'était pas chic. Puis la façon surtout qu'il s'est pitché sur la glace, là, lorsqu'il a senti que la rondelle, il touchait derrière la jambière, il s'est lancé comme quand je gaulais dans la rue. Là. Fait que là, ça, dans ce temps-là, tu vois que la technique puis les nerfs sont pas à point. Par contre, par la suite, il a quand même fait de gros arrêts. Parce que même si on n'a pas donné énormément de lancers, on a donné des chances de qualité A. Ouais.
Mais on s'est retrouvé à un moment donné, là, au compteur, t'avais 4 buts sur 17 lancés. Les Canadiens en avaient 30 quelques puis 2 buts. Mais c'est peut-être pas les mêmes qualités de lancer. Ça, je conviens que c'est pas la même qualité de lancer. Ça, j'en conviens.
Non seulement il fait pas tous les arrêts qu'il devrait faire, mais il sauve pas nécessairement les meubles non plus. Fait qu'effectivement, peut-être qu'avec Montembeau, on avait un meilleur sort, on le saura jamais. Il a quand même été mieux que je croyais, là, Jake Allen dans le match d'hier. À part un début un peu plus chancelant, par la suite, il a fait des arrêts. Ça a brassé quand même dans ce match-là. Il y a eu plusieurs coups. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis honnêtement, je m'étais pas ennuyé de ça. J'ai pas trouvé ça chic. Là. Le coup de Greer à Hoffman, j'ai vraiment, tu sais, sur un arrêt de jeu en plus, c'était une mise en jeu. C'est même pas pendant l'action. J'ai trouvé ça ordinaire.
Mais c'est un double échec en pleine face.
C'est en plein visage. Ouais. Après ça, il y a Evans, là, quand à la fin de la période, quand Marchand il a tiré dessus avec son bâton qui a fait perdre l'équilibre, et le défenseur des Bros est allé le frapper bien comme quoi alors qu'il n'y a pas la rondelle. Ça aussi, c'était cheap. Pezzetta dans le coin de la bande, c'était cheap. Et les arbitres, ont rien appelé hier là, de ces pénalités-là. Ça, c'était vraiment un match ordinaire, un match typique canadien Bros comme on en a vu il y a 10 ans, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de match-là. Bref, belle performance canadienne quand même, 4-2, une défaite. On va pouvoir se reprendre demain après avoir joué contre la meilleure équipe de la Ligue. On va jouer contre la pire, les Blue Jackets de Columbus, privé de Patrick Laine en plus. Donc le Canadien qui est capable d'aller chercher ce match-là ou en tout cas offrir un bon divertissement aux spectateurs du Centre Bell.
En début de saison, Mike Matheson, en fait, quand il est revenu au jeu après sa blessure, c'était peu convaincant. On avait été assez dur avec lui. Là, tu penses qu'on lui doit des excuses?
Je pense qu'on devrait s'excuser à Mike Matheson. Pour vrai, là.
Je m'excuse.
C'est un des plus beaux patineurs de la Ligue nationale d'hockey.
On se comprend. Là. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a eu besoin d'un temps pour s'adapter. Là. Peut-être rater le début de la saison avec une nouvelle équipe. Il avait l'air perdu, mais là, il a trouvé ses repères.
Ouais, dans un nouveau rôle aussi, parce qu'à Pittsburgh, c'est un défenseur 5-6. Là. Il n'y avait pas le temps de glace qu'on lui donne ici à Montréal, la latitude qu'on lui donne. Mais hier, là, je ne sais pas si tu as vu le petit tourniquet qu'il a fait... en rentrant dans la zone des Browns, et il a failli réussir à compter. Là, je veux dire, il a tout un patin. Il a joué tout près de 30 minutes hier. Il manquait quelques secondes.
Là, on l'utilise. Le Martin Saint-Louis l'utilise. Il devient, à mon avis, dans le dernier mois, il doit être un des plus utilisés des défenseurs de la Ligue en nombre de minutes par match. Là.
Carrément. Bref, Ken Hughes a eu du flair là-dessus. Je pense que ça a été un de ses clients, d'ailleurs. Fait que probablement que lui connaissait mieux Mike Madison que tout le reste de la planète. Mais tu sais, contre Jeff Petrie, Mario, là, c'est tout d'un, il coûte moins cher. Il est plus jeune, il a envie de jouer à Montréal, c'est un Montréalais. Jeff Petrie qui voulait sortir d'ici, sa femme voulait partir d'ici. Fait que quand on pense aux conditions dans lesquelles Kent Hughes a manœuvré, tu sais, quand tu sais que l'autre veut s'en aller, t'as pas le gros bout du bâton lorsque t'appelles des DG, c'est toute une transaction. Même chose pour Kirby Dach, qui en a joué une deuxième bonne de suite. On va attendre avant de s'emballer. Mais je suis en train de me dire, notre centre numéro 1, notre centre numéro 2, ça pourrait être réglé pour les 7-8 prochaines années. Là. C'est pas des joueurs à la Crosby ou McDavid, mais Suzuki et Kirby Dach peuvent nous donner du gros hockey si on leur trouve des alliés. Je sais pas si toi t'es impressionné, mais hier, son calme, sa grande charpente. De manière, il y a un joueur des Bruins qui a essayé de le mettre KO là, lorsqu'il tournait le coin du filet. C'est le joueur des Bruins qui a tombé. Là. On oublie qu'il fait 6-4, ce jeune homme-là de 22-23 ans, mais tantôt à 27-28, là, quand il va avoir fini de prendre de la masse, etc.
Non, mais il va faire peur. Là. Mais écoute, avant sa blessure, il était parmi les meilleurs du Canadien. Ses chiffres, il va finir dans les top scoreurs de l'équipe. C'est le joueur offensif avec Suzuki. Là, c'est le joueur offensif de l'équipe. Puis sur certains volets, à mon avis, il est même supérieur à Suzuki. Ça, c'est toute une trouvaille. En fait, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à Chicago pour qu'eux ferment les livres. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là.
Sais-tu quoi? On a reproché son ardeur au travail et son vouloir de compétitionner match après match. Puis je peux comprendre parce que quand tu le regardes, son visage dit rien. Hein? Il est comme plein, tu vois pas d'agressivité, mais tu vois hier dans le match Canadien-Bruins qu'il aimait ça, là. Il en voulait. Puis moi, quand j'ai vu Jonathan Toews et Patrick Kane crier au scandale lorsque les Blackhawks l'ont échangé en disant qu'on n'y avait pas donné vraiment une chance à Chicago, ben visiblement, ils ont manqué le bateau, surtout qu'ils sont en train de reconstruire à Chicago. Tu avais un jeune prometteur
c'est
comme
le genre
ça,
de
22,
jeune
23
qui avait
ans.
Besoin.
Hein, tout le monde court après ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec le contrat de Gallagher? Là? Ça va être la question de l'été, ça, là.
Ouais, puis j'ai lu, puis là je peux pas trop m'embarquer dans les technicalités de la masse salariale, mais c'est moins imposant sur la masse si tu rachètes quelqu'un au début de son contrat que plus t'attends vers la fin de son contrat. Donc si le Canadien le rachetait là, on aurait une pénalité plus longue dans le nombre d'années, mais à un moins gros salaire sur chacune des années. Tu me suis? Fait que mettons, ouais. On l'a sur la masse pour 8 ans, à 1,5 million, alors que si on le rachète dans 2 ans, on va l'avoir sur la masse juste pour 4 ans, mais à 4 millions. Fait qu'il y en a qui disent que ce serait plus avantageux de l'acheter tout de suite. Et hier, ça faisait mal à quel point il n'y a plus de souffle. Il va plus en avant du filet parce qu'il est en retard sur le jeu. Le seul temps où il est capable d'aller devant le filet, c'est en avantage numérique parce qu'on est installé dans
zone. Parce que ça s'installe, ouais, c'est ça.
Et il reste 4 ans au contrat de Brendan Gallagher. Puis, ça faudrait pas que ça devienne une distraction dans le sens où il a donné beaucoup aux Canadiens. On veut le respecter, on veut le jouer. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il apporte quelque chose à la patinoire aussi. Surtout qu'il prend une grosse partie de la masse salariale. Ouais. Ça me fait mal de dire ça. Là. On l'aimait, Brendan Gallagher.
Il reste 45 secondes pour parler de tennis. T'as une série de nouvelles de tennis?
Oui, Bianca a gagné aujourd'hui. Elle a sorti Maria Sakkari, 7e tête de série, 5-7, 6-3, 6-4. Leila commence son match contre Belinda Bencic et Shapovalov a aussi gagné avec difficulté quand même contre le 581e joueur mondial. Et juste vous dire, le Patrick Roy en a parlé hier, son appel a été rejeté à la Ligue. Visiblement, Patrick Roy a semblé dire des choses, lui aussi, au gars des Cataractes. Alors je pense que tout ça s'est égalisé et la Ligue a décidé de ne pas poursuivre. Donc ni les Cataractes ni les Remparts vont avoir des suspensions de la part de la Ligue junior majeure du Québec.
Il va avoir du fun, Mario Cecchini, à gérer ça, la Ligue d'hockey junior majeur avec les nouveaux standards. Hey, bonne fin de semaine! Bye-bye! Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous lundi, 15h30. Bon week-end.
Cube Radio.